Pod.
Cette saison de Podcast Science ressemble un peu à un gros point d'interrogation. Nous l'avons débuté en interrogeant les rapports entre science et science-fiction avec Jonathan. Il y a 15 jours, nous levions le voile sur quelques-uns des travers de la démarche scientifique lorsque nous cherchions à comprendre avec l'équipe de Hacker PhD quels problèmes pourraient être résolus par le mouvement de l'Open Science. Et aujourd'hui, nous vous proposons de poursuivre cette exploration et de parler d'une dérive intéressante, celle de ces personnes de formation scientifique ou proches des milieux scientifiques qui, parvenus à un certain âge, retournent leur veste et échafaudent leurs propres théories, clamant qu'il s'agit de science, mais tout en rejetant les fondamentaux de la démarche scientifique, à savoir la capacité de remettre en question des hypothèses invalidées par des faits. Pour en parler, nous recevons Alexandre Moiti, éminence grise, qui conseille les ministres entre deux cours à l'ENA. Et fréquenter le Serail n'empêche pas Alexandre d'être un excellent camarade et collègue blogueur sur le Café des Sciences. Décoré de l'Ordre National du Mérite, on relèvera d'ailleurs qu'il est le premier chevalier que nous recevons sur Podcast Science. Ce n'est bien sûr pas à ce titre que nous avons le plaisir de l'accueillir, mais plus particulièrement sa qualité d'auteur du livre Alter Science, publié en début d'année chez Odile Jacob. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2013, vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 146. Bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette émission,
l'interview d'Alexandre Moiti, qu'Alain vient de vous présenter, auteur du livre Alter Science.
Interview essentiellement conduite par Nico Tup.
Nous entendrons ensuite le One Minute Speech de l'émission, non pas de la semaine prochaine, désolé, mais on fera notre université d'automne à la montagne sans vous, mais pitch donc de l'émission de la semaine suivante, le 17 octobre, qui aura lieu comme d'habitude le jeudi.
On prendra des nouvelles du quiz du mois. Le fameux message secret de la semaine dernière a d'ailleurs été déchiffré.
Nous avons reçu un abondant courrier d'auditeurs cette semaine avec des questions comme on les aime. Nous parcourrons donc ensemble quelques-unes de ces réactions.
On entendra un kiff.
Comme d'habitude, la cote de l'émission.
Quelques plugs.
Et bien sûr, les dessins de Nicotube qui tomberont sur vos écrans pendant le live s'il arrive à dégainer ses crayons pendant qu'il conduit l'interview.
C'est multitasking de le retour. On verra comment
il
s'en
sort. En fait, il va être un peu limité parce qu'on n'a pas énormément la place de le faire. Ça va être un peu compliqué. Donc, il n'y aura pas de dessin ce soir.
Alors, on va expliquer un peu la configuration. Donc, Paris, Nicotube, tu te trouves à Paris chez Alexandre Moiti.
C'est ça.
Voilà. Bah, bonsoir, Alexandre. Bienvenue.
Bonsoir Alan, bonsoir à tous.
Et puis merci de nous accueillir chez toi. Donc ton séjour est transformé en studio de Podcast Science pour la circonstance.
C'est ça, on est entouré de bouquins, c'est impressionnant.
Ça doit être pas mal. Vous pourrez poster des photos si jamais on est friand à la place des dessins. On doit avoir Robin, mais il n'est pas encore là, il va nous rejoindre en cours de route. De Stab City, nous avons notre ami David qu'on a entendu présenter le sommaire. Salut David.
Toujours présent.
Et puis moi, Alan, je me trouve à Lausanne. Trêve de préliminaire, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Nico, tu nous as préparé une petite introduction ?
Ouais, j'ai juste préparé une petite introduction et qui résume hyper rapidement un bouquin qui est quand même gros bouquin. Donc on reçoit ce soir donc Alexandre Moiti, membre du Café des Sciences et surtout auteur d'Alter Science, un livre qui parle d'un sujet assez fou, comme il le définit en fait vers la fin du bouquin. L'alter science, ça peut s'entendre comme une autre science, comme une science altérée, voire comme une science tournée vers autrui. C'est-à-dire, non vers les pairs scientifiques, mais directement vers le grand public, vers le plus grand nombre, auprès duquel une légitimité directe est recherchée. Donc c'est une science qui cherche moins, c'est des gens qui se sont tournés, qui font plus vraiment de la science, qui souvent ne sont pas du tout acceptés par le monde scientifique, parce qu'ils n'ont pas la bonne démarche, comme tu disais au début, refusent d'accepter les faits ou des fois font des théories qui sont absolument pas observables et cherchent par contre un accord du grand public à diffuser au maximum leurs idées parfois assez farfelues. Donc c'est des histoires d'hommes, de femmes, la plupart du temps scientifiques, qui sont passés du côté obscur et qui ont perdu la rigueur caractéristique de ce domaine pour aller vers autre chose. D'un culte idéologique à une nostalgie du passé, on va parcourir au fil de l'interview quelques-uns des thèmes qui ont alimenté un bouquin assez dense. Donc le livre se termine par une tentative de définition, ou plutôt justification de la non-définition d'alter science, dont j'ai un peu parlé là, et de ce que peut nous apporter une étude de l'alterscience pour étudier le monde contemporain, la science contemporaine. Avant cela, Alexandre présente de nombreux exemples d'alters scientifiques, donc entre guillemets alters scientifiques, pour peu que ça veuille dire quelque chose. Je crois qu'il y en a une douzaine, c'est ça ?
Oui, c'est ça, une douzaine de cas.
Et donc ça passe par un peu tout, beaucoup d'idéologie, de la religion, de la politique, de la nostalgie, enfin on découvre pourquoi des gens ont glissé d'un autre côté, on va beaucoup en parler. Mm-hmm. Et enfin, le livre commence par des réflexions un peu plus à la fois où tu donnes ton avis, où tu analyses, donc plus qui ont tendance à faire une synthèse un peu de ce qui a été dit, de ce qui sera dit en fait dans la suite du bouquin. Et donc vous l'aurez compris, ce soir on a largement de quoi discuter, alors je propose de commencer tout de suite l'interview, et je crois qu'on va commencer par des questions assez générales sur le bouquin d'Alan.
Ouais, enfin les questions sont d'Alan. Oui, moi je voulais te demander, Alexandre, si tu peux nous dire deux mots sur la genèse du livre. Pourquoi est-ce que tu as écrit sur un tel sujet ?
Alors en fait, donc c'est surtout en milieu ingénieur et milieu polytechnicien dont je fais partie que il y a quelques temps déjà eu à faire des choses bizarres, des remises en cause de la théorie de la relativité par quelqu'un comme Maurice Allais, prix Nobel d'économie, ingénieur polytechnicien de formation. Et donc ma première étape, ça a été d'écrire mon livre Einstein, un siècle contre lui, c'est-à-dire de faire un travail de 1905 à 2005 sur les ennemis de la relativité. Alors ce qui peut se comprendre en 1920, au moment où la relativité générale vient de sortir, se comprend nettement moins en 2005. Et c'est en approfondissant tous ces aspects ennemis de la relativité en 2005, notamment à l'occasion de l'année mondiale de la physique, puisque c'était le centenaire des articles d'Einstein, que j'ai trouvé un certain nombre de mouvements, d'individus. Je pense par exemple la revue de Lyndon LaRouche. Lyndon LaRouche, j'appelle ça moi un panscientifique, un technofasciste. La revue Fusion, Lyndon LaRouche était représenté en France par Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est des mouvements très particuliers. Sa revue Fusion accueillait des articles de Maurice Allais, accueillait des articles d'un autre polytechnicien plutôt créationniste, lui un géologue créationniste qui s'appelle Guy Berthaud, qui avait essayé de faire des comptes rendus à l'Académie des sciences. Et donc, si tu veux, c'est en voyant tout ce mouvement, ensuite un site plus ou moins plutôt de la Fédération anarchiste qui citait la revue Fusion, qui est plutôt située à l'autre bord. Enfin, j'ai trouvé tout un réseau comme ça de choses assez bizarres concernant la relativité, et ça m'a amené à approfondir qu'est-ce que c'était que cette remise en cause des théories scientifiques, notamment en physique avec la relativité, un peu moins la physique quantique, et en biologie, la théorie darwinienne, qui est souvent confondue avec une espèce de vaste darwinisme social, et qui est à la fois critiquée, donc du coup, en confondant une espèce de vague darwinisme social et la théorie darwinienne elle-même, la théorie néo-darwinienne de l'évolution, on arrive à des positions aberrantes chez certains créationnistes, chez certains anti-sciences aussi, qui voient en Darwin le valet du libéralisme anglais. Enfin, ça va assez loin comme critique, quoi. Donc sur certains points elle est justifiée, sur l'ensemble de ces théories là de ces contre-théories m'est apparu très très peu digne d'analyse et valant la peine d'être critiqué, oui, à tous les sens du terme, voilà, regarder et puis critiquer.
Ok. Bon, en tout cas, on comprend bien comment de fil en aiguille t'as trouvé la matière. Effectivement, elle n'attendait qu'à être réunie finalement. Il y a une autre question que je me posais, c'est d'où vient le terme alterscience ? J'ai pensé que tu l'avais inventé. Avant de me souvenir que j'en avais parlé il y a 2 ans dans l'épisode 25 de Podcast Science, enfin 2 ans, presque 3 maintenant, qui parlait du dénialisme scientifique, avant finalement de m'apercevoir que l'auteur que je citais dans cet épisode, c'était toi.
On ne se connaissait pas à l'époque, alors où on
effectivement,
était au café des sciences.
Mais... C'est ça. Alors, les anglo-saxons disent « crank » pour ce que recoupe le concept d'alterscience. En français, on avait pseudo-scientifique, on avait négationniste de la science, dénialiste, anti-science, anti-scientifique. Aucun de ces termes ne convenait précisément pour circonscrire l'idée.
Alors, j'avoue que je connaissais pas le terme. C'est la première fois que je l'entends, oui. Donc, il doit pas être très répandu, le dénialiste, mais je vais le retenir, hein. Écoute, moi, j'ai mis ce terme. Alors, d'abord, qu'est-ce que Nico l'a dit un petit peu, qu'est-ce qu'on pouvait mettre derrière ce terme? Et encore une fois, il n'y a pas forcément une définition de la science, donc je serais bien en peine de faire une définition précise de l'alterscience, mais est-ce que on est, disons, aux marges de la science, voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le point le plus neutre, c'est une autre science, hein. Maurice Allais, par exemple, il n'y a pas d'idéologie, il imagine une autre de physique sans la relativité, voilà. Donc, mais elle est totalement infondée, hein. Ensuite, ça, c'est une science altérée, du coup, parce qu'elle est privée de ses théories. Il n'y a plus la relativité, donc ça, on peut considérer que c'est une science altérée. Et puis rapidement, chez ces théories d'ingénieurs, t'as de l'idéologie qui arrive aussi. René-Louis Vallée, c'est un ingénieur supélec qui est anti-relativiste, qui est dans ces mêmes cercles de polytechniciens, de centraliens, d'un supélec. Là, le cercle de physique Alexandre Dufour, tel que je le décris, qui se réunit de 1945 à 1980. C'est toute une génération aussi qui a pas du tout été formée à la relativité. Et bien, chez René-Louis Vallée, assez vite, t'as de l'idéologie qui arrive, hein. Donc le grand complot, la science, les hommes en noir de la science qui nous cachent tout, voilà. Donc il existe une autre science qui nous serait cachée, tu vois, par ces hommes en noir, quoi. Donc il y a un peu de tout dans l'alterscience. Il y a ce que rappelait Nico, c'est-à-dire une science en priorité tournée vers autrui, c'est-à-dire des gens qui s'adressent directement à la radio, à la télé, sans passer par la validation scientifique. On va dire que les réchauffements climatiques, c'est du n'importe quoi, en allant directement à la radio. Guillaume Lecointre appelle ça, c'est toujours Guillaume Lecointre qui est comme moi contre le créationnisme. Il dit c'est la bataille de la communication contre la bataille de l'argumentation que nous scientifiques on essaye de mener contre la bataille de la communication que certains autres. Et là, c'est difficile de gagner la bataille de l'argumentation contre la bataille de la communication dans des émissions de radio, pire, des émissions de télé. Et voilà, donc une science tournée vers autrui. Et puis il y a ce terme, alors c'est vrai que alterscience, ça peut ressembler à d'autres préfixes comme altermondialisme, c'est vrai, ouais. Ça peut être vu positivement parfois, ça peut aussi quand même être vu négativement, c'est-à-dire des références justement à des théories du complot, un grand complot des élites mondiales, etc., qu'on retrouve dans certains aspects, pour prolonger mon livre, si tu veux, j'avais étudié Beppe Grillo. Hein, Beppe Grillo, c'est le politicien italien qui a quand même eu 25% des voix aux législatives italiennes. Eh bien, il fait ce qu'on appelle du populisme scientifique, hein, si eux, il dit le virus du HIV n'existe pas, le virus du sida n'existe pas, il y a un OGM de tomates qui a fait 60 morts dans les cantines scolaires italiennes, enfin si c'était vrai ça saurait plus que ça. Il dit la prix Nobel professeur Rita Levi-Montalcini, elle s'est fait acheter son prix Nobel par l'industrie pharmaceutique en général. Donc si tu veux, voilà, ces théories du complot, voilà, on nous cache tout, le HIV c'est juste parce que c'est les grandes firmes pharmaceutiques qui voulaient vendre cher des vaccins. Que les firmes pharmaceutiques vendent cher ce vaccin, c'est un fait. Que le virus était inventé, c'est un peu
c'est n'importe quoi. Ça voudrait dire qu'on est très avancé scientifiquement, sans doute.
Oui, c'est vrai, oui, si on est capable de faire ça.
Et par contre, tu expliques à la fin justement du bouquin qui a une que par rapport à pseudosciences tu voyais une vraie différence, oui, suffisante pour ne pas appeler ça des pseudosciences.
Oui, pardon, ouais, c'est vrai, parce que il m'a semblé que dans pseudosciences le pseudosciences veulent pas forcément se mettre à la place de la science, si tu veux. Je suis pas sûr que l'astrologie veuille remplacer l'astrophysique, hein. Je suis même sûr que non, quoi. Je suis même pas sûr qu'elle cherche une onction scientifique. Moi, je suis pas un spécialiste des pseudosciences, mais ceux qui les ont étudiés proposent d'appeler ça parascience, hein, c'est-à-dire autour de la science. Moi, je parle vraiment là de gens qui sont des scientifiques et qui essayent de contrer des théories en vigueur, hein, Darwin, Einstein, et de
et
proposer
très souvent
autre chose.
Rêve de devenir les nouveaux scientifiques.
Oui, bien sûr, oui, oui, ils s'estiment comme les nouveaux Galilée incompris, etc. Enfin, donc ils se comparent. Donc on est dans une démarche qui ressemble à une démarche scientifique, tandis que bon, je dirais que les pseudosciences c'est quelque chose de tellement vaste, si tu veux, le magnétisme, etc., la parapsychologie, ce que j'ai étudié, on est vraiment au cœur de l'attaque des théories contemporaines, hein, physique, biologie, on n'est pas dans des baguettes de sourciers, des choses comme ça, quoi. Donc on est à la limite, c'est plus des théoriciens auxquels on a affaire, quoi, des gens qui montent des théories par eux-mêmes. Donc voilà, si le terme pseudo-science, alors c'est Martin Gardner, tu sais, Martin Gardner, c'est un mathématicien qui faisait, j'adore ce type, il faisait la rubrique scientifique la rubrique jeu mathématique du Scientific American et de Pour la science. Et c'est un des premiers à avoir étudié ça. Il appelait ça In the Name of Science. Hein, in the name of science, et ces balivernes, elles sont dites au nom de la science, voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas des pseudo-sciences, si tu veux, t'as peu de références scientifiques.
Ouais, d'accord.
Donc c'est un peu ça que je.
Dans l'approche se prenant pour gagner et tout, il y a par exemple une citation de Fourier dans ton livre. Alors c'est le Fourier, j'ai un petit tiqué au début, c'est pas celui bien sûr dont on a parlé qui a fait la transformée de Fourier, etc.
Ah bah oui, bien sûr.
C'est important à préciser.
Ah, ouais, ouais, ouais,
et qui disait le génie est toujours méconnu quand il devance son siècle. Et ça résume, je trouve, pas mal l'idée de la plupart de ceux dont on va parler derrière, où ils sont persuadés quand même d'avoir une idée qui est l'idée du siècle et que les autres refusent de voir.
Oui, Fourier, c'est ce philosophe. Ben, je peux te citer quand même ce que j'appelle le paradoxe de Groucho-Marx. Parce qu'il y a un mimétisme de la science chez ces gens-là. Le paradoxe de Groucho-Marx, c'est je voudrais jamais faire partie d'un club qui m'accepterait comme membre.
Je l'avais pris pour une coach, justement.
Ah, bon, pardon. Ah, désolé de. Le détaille, parce que ça vaut le coup de s'y appesantir un petit peu, si je le détaille, je le schématise dans mon bouquin. C'est par exemple, quelqu'un qui veut rentrer à l'Académie des sciences, par exemple Marat, le révolutionnaire Marat, on ne sait pas qu'il a été physicien, alors il vitupère contre l'Académie des sciences, et la suite logique, c'est de dire elle ne m'accepte pas, donc elle ne fonctionne pas normalement, donc je la dénonce. Et donc elle ne m'accepte pas puisque je la dénonce. Donc c'est un cercle voilà qui s'auto-alimente. Hein, je le répète, elle ne m'accepte pas l'Académie des sciences en son sein. Donc évidemment ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas normalement. Donc si elle ne fonctionne pas normalement, c'est pour cette raison, mais c'est pour plein d'autres raisons aussi. Donc je la dénonce et j'ai raison de la dénoncer. Et si j'ai raison de la dénoncer, elle ne m'accepte pas. Donc c'est un cercle qui s'auto-entretient finalement. C'est un cercle de vitupération qui s'auto-entretient. C'est donc ça illustre un peu plus ce paradoxe. Mais voilà c'est des gens qui veulent profondément s'intégrer dans le système aussi, qui font pas seulement appel à autrui, au grand public, ils font appel, ils écrivent au président de la République, ils écrivent à certaines.
Il y en a un qui a écrit à Einstein pour.
Oui, bah oui, il est pas froid aux yeux lui.
Il y a un échange avec Einstein qui est assez croustillant dans le bouquin, oui, où il lui explique que vous pouvez pas avec votre intelligence ne pas ouvrir les yeux sur ma théorie qui en plus venait avant la vôtre, etc.
Ouais, oui, tout à fait. Mais t'as soit Edouard Guillaume qui écrit, je vous rappelle, il écrit en 40 à Einstein, il l'avait connu à l'office des brevets à Berne en 1904-8, et il lui écrit ne vous pensez-vous pas qu'il y a une terrible erreur dans la théorie de la relativité, quoi. Et donc il écrit ça à Einstein, et Einstein répond toujours
gentiment,
oui, tout à fait. Donc il lui dit que vous vous intéressiez à ça encore, alors que nous mangerons bientôt tous deux les pissenlits par la racine, m'étonnera toujours, quoi. Donc avec humour, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de crank là qui illustre cet échange.
pour rester un peu dans les questions généralistes avant de passer la parole à Nico pour conduire l'interview à proprement parler, du coup peut-être qu'on va essayer de faire un peu plus rapide sur ces quelques dernières questions.
J'ai l'impression qu'il y a un gigantesque travail de documentation derrière le livre, et je me demandais combien de temps recherche t'a pris. Ça doit se compter en années.
Surtout pour situer les auditeurs, chaque chapitre finit par 4 ou 5 pages de références bibliographiques. Donc en effet, au niveau travail de documentation, ça.
Attends, faut pas trop décourager les lecteurs. D'abord, je mets pas les références bibliographiques à la fin du chapitre, je mets à la fin du livre.
C'est les références, c'est les notes de bas de page.
Ah oui, les notes de bas de page. Oui, c'est-à-dire, alors là, c'est alors je réponds à ta question. Moi, ça fait à peu près depuis 7 ans que je travaille là-dessus, puisque j'ai sorti mon livre disons 5 ans que je travaille là-dessus, puisque j'ai sorti mon livre sur Einstein en 2007, et puis j'ai fait un cours à l'école des hautes études en sciences sociales sur l'alterscience en 2008-2009. Mais quand même, si tu veux, pour je rentre quand même dans, je sais pas que je fais des attaques, mais je décris des personnes. En pointant le côté aberrant de ce qu'il propose. Donc il y a intérêt à être sérieusement référencé quand tu fais ça, si tu veux. Je ne peux pas me permettre d'aller en terrain découvert.
Okay, ma question, c'était combien de temps ça t'a pris ?
Écoute, je te dis, moi, sur ce sujet, je travaille depuis 2006. Mon premier bouquin, il est sorti en 2007. J'écris aussi des bouquins de vulgarisation, mais ça, c'est la Suisse d'Einstein, un siècle contre lui. Après, tu sais, des bouquins, tu fais 2-3 versions successives, et puis je fais autre chose aussi. Donc, celui-là, j'ai dû le commencer 2 ans avant sa publication, et c'est vrai que j'ai pas mal travaillé dessus, oui, parce que je... Et encore une fois, le titre, si tu veux, « Alterscience », c'est vraiment les marges de la science. J'ai dit ce que ça voulait dire tout à l'heure. C'est un peu un magma, j'en suis conscient, mais c'est aussi pour ouvrir le débat, parce que je pense que de plus en plus la science est utilisée dans diverses radicalités, en quelque sorte, et surtout dans notre période contemporaine, quoi.
Et pour compléter cette histoire de documentation, tu dis à un moment dans le bouquin, tu suggères que t'as été profiter même physiquement, aller voir des conférences de ce type de mouvement, t'as été les approcher.
Oui, alors ça beaucoup de je suis allé dans un cercle créationniste intégriste, des catholiques intégristes, même je me cache pas, moi je donnais mon nom et je signe avec qu'il fallait payer, je payais avec un chèque. Donc dans ces cercles catholiques intégristes, autant la science c'est comme la cabale, c'est une nouvelle religion, etc., autant garder la nôtre. Je suis allé des conférences du fondamentaliste turc Harun Yahya là au Théâtre des Variétés à Paris, un dimanche soir par an, 2 fois de suite, Harun Yahya, il avait envoyé l'atlas de la création à tous les lycées et collèges. Ouais. Et puis j'ai eu ce mouvement de Lyndon LaRouche, Jacques Cheminade, ça touche pas mal de jeunes. C'est un discours très séduisant. Il y a un rapport de la mission sur les sectes avait considéré que c'était une secte, et ils étaient venus perturber un de mes cours à l'EHESS, à l'école de hautes études, mais perturber gentiment, c'est-à-dire porter là une espèce de contradiction, pas me mettre la salle à sac en fait, donc j'ai été confronté, et c'est toujours intéressant de toute façon d'ouvrir le dialogue, enfin pas n'importe où, pas n'importe quand non plus, mais il faut être sur le terrain aussi.
Ouais, et je pense que c'est pas toujours possible, quoi.
Non.
Mais c'est courageux. Moi, je me demandais à qui le livre s'adresse. Est-ce que tu avais un lecteur en tête, ou tu t'adresses à un public particulier, ou...
Écoute, moi je pense que ça s'adresse à tous ceux qui s'intéressent au rapport science-société, quoi. Donc comprendre quelques ressorts de l'opposition à certaines oppositions à la science contemporaine, quoi. J'illustre le climato-scepticisme avec des gens très radicaux comme Larouche, c'est-à-dire Larouche-Cheminade, c'est-à-dire vraiment l'industrie Uber-Alles, si tu veux, c'est des mouvements violemment anti-écologistes, mais si tu veux, c'est des mouvements très radicaux que j'étudie. Mais ils percolent de manière plus édulcorée, au plus près de chacun de nous aussi. Et c'est pour donner à mes lecteurs des grilles de décryptage des rapports science-société contemporains, quoi. N'importe qui s'intéresse au, enfin, je fais pas l'article, là, si tu veux, mais s'intéresser au rapport rapport science-société contemporain aux idées contemporaines, aux idées assez radicales contemporaines, vu du côté de la science. C'est un livre d'histoire des idées. C'est un livre où je me suis amusé à raconter des histoires aussi. C'est un livre où je raconte des choses aussi. C'est pas qu'un livre à thèse, quoi. Hein, voilà, c'est
ce que j'ai... Le gros du bouquin, c'est quand même donc 12 exemples et encore 12 à l'intérieur. Il y a souvent d'autres petits exemples, etc. Donc il y a beaucoup d'exemples. Hein. C'est construit autour de ces exemples. Quoi.
Moi, j'aurais voulu qu'on démarre l'interview avant de prendre les unes après les autres toutes les questions que Nico a préparées. En nous racontant une histoire, justement, une des histoires que tu racontes dans le livre, c'est que je trouve très intéressante parce qu'elle montre à quel point des gens sérieux et intelligents peuvent se laisser embarquer dans des histoires complètement abracadabrantes. Je pense
et
à l'histoire
même,
des...
juste avant, c'est même une des seules, je crois que c'est une des deux, peut-être un des deux exemples du bouquin où il y a des gens qui y ont cru et qui se sont perdus dans cette histoire-là, en fait, qui y ont cru, quoi. Alors, d'habitude, c'est des cercles un peu fermes, mais Alain va révéler le mot.
Donner l'envie.
C'est l'histoire des avions renifleurs.
Ah oui.
La deuxième à laquelle je pensais, c'est Lysenko, où là, il y a des gens qui y ont cru et où ça a pris, quoi.
Oui. Alors, Lysenko, ça a été
Lysenko,
pas mal étudié.
On a déjà fait un dossier justement dessus.
Les avions renifleurs, ouais. Écoute, ça a été vu beaucoup comme une escroquerie, ce qui est vrai qu'il y avait une escroquerie. Mais moi, vu du côté de la science, c'est assez amusant. Et du côté de l'altercience, j'ai appelé ça même une altercience à double face. Parce que les escrocs en question, c'était un tandem italo-belge. T'avais un grand aristocrate belge, mais qui avait une fortune personnelle et qui la dilapidait dans des trucs, des usines de dessalement d'eau dans le désert. Donc l'idée qui, et puis l'Italien, c'était un technicien de télévision, c'était un réparateur de télévision dans un magasin d'électroménager. Donc c'était ça le professeur Bonassoli, c'était ça. Donc ce tandem, il a proposé à Elf un procédé soi-disant où depuis un avion t'envoyait une particule, évidemment à la vitesse de la lumière, qui était réfléchie par les couches pétrolifères, qui auraient été réfléchies par un peu de la géophysique d'un avion et avec des particules, si tu veux, là c'est pas de la géophysique sismique où tu fais des tremblements, c'est une particule qui reviendrait, en plus porteuse d'informations, elle reviendrait à la vitesse de la lumière, donc l'avion ça va, porteuse d'informations, elle aurait permis de détecter les sous-marins aussi dans l'eau, ça aurait été une arme militaire extraordinaire. Bon, évidemment c'était une toute nouvelle physique, quoi. Et si tu veux, c'est ce qui est étonnant dans cet exemple, c'est à la fois ils n'étaient pas forcément totalement de mauvaise foi. Ils le sont devenus quand ils ont été poussés dans leur retranchement. Mais c'est les deux escrocs en question, c'était des gens qui baignaient dans une forme d'alterscience, hein, dans des choses ésotérisées par ailleurs. Ils bidouillaient sur ses écrans, là, le technicien de radio-télévision. Donc c'était pas des escrocs de haute volée comme on peut en trouver maintenant beaucoup plus. C'était vraiment un drôle de tandem. Et je dis alterscience à double face aussi parce que les polytechniciens d'Elf Aquitaine, ils étaient, c'était le public rêvé, hein, pour accepter une théorie physique totalement nouvelle, parce que la science, ça les intéresse, mine de rien. On dit, ah ben nous, département de la recherche d'Elf Aquitaine, on a trouvé une théorie physique que l'université a pas trouvé. Il y a toujours cette rivalité aussi école-université en France, ou même industrie privée, recherche publique. Et donc, si tu veux, voilà, à tel point qu'ils avaient baptisé leur nouvelle particule, soi-disant, puisque tout ça n'était que du bluff, hein. Il aura fallu à un autre polytechnicien du CEA, Monsieur Horowitz, à peu près 3 réunions pour leur montrer, faire une supercherie et montrer, comme pour les rayons N, que c'était du n'importe quoi. Mais si tu veux, voilà. Donc, ils avaient baptisé leur nouvelle particule l'Aldino, hein, du nom de d'Aldo Bonassoli. Aldo, il s'appelait, c'était son prénom, le professeur italien. Ils appelaient la particule l'Aldino, comme on dit des neutrinos, tu vois. Donc, bon, des neutrinos, on n'en observe pas beaucoup, mais on en voit, on arrive à en capter. Des Aldinos, personne n'en a capté, ni pendant l'affaire des avions renifleurs, ni depuis d'ailleurs.
Mais justement, enfin, c'était qu'une théorie, il n'y avait aucune preuve expérimentale quelconque.
Et
ce qui est fou, c'est qu'il y a autant de gens qui y ont cru longtemps, à des ingénieurs, des gens de formation, sans aucune preuve.
Ouais, et c'est ça qui est intéressant dans cette théorie, parce que c'est des gens qui disent un fait est un fait, la relativité, c'est très spéculatif, etc. Les chercheurs, ils trouvent bien des particules à l'autre bout du monde qui vont de Bangkok à San Francisco, bon, ce qui est, des extrapolations largement erronées de ce que fait la physique des particules, mais contradictoirement, leurs théories à eux, elles sont pas vérifiables non plus. Si veux. Donc c'est facile de dire, par exemple, prenez Louis Vallée et dit, on fera des expériences quand nous aurons suffisamment avancé sur la théorie, ou bien il dit que notre théorie soit vérifiable ou pas n'est pas le. Notre théorie est très difficilement vérifiable. Parce que ça porte sur des pouillèmes de vitesse de la lumière, 10-10 c. Notre théorie est très difficilement vérifiable. Donc voilà, c'est des gens qui se complaisent dans une espèce de d'irrationalité. À la fois ils dénoncent les mathématiques et la relativité et qu'il faut en rester aux faits, et à la fois eux ils se soumettent pas à l'épreuve des faits, quoi.
Ça, c'est justement ça, ce que tu dis rapidement c'est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a plein d'arguments très intéressants et de critiques très constructives et intéressantes de la science. Mine de rien, c'est qu'ils sont obligés d'en faire parce qu'ils attaquent la science. Et des fois, il y a des critiques constructives quand on a un peu enlevé les critiques de la relativité, etc. Ben, typiquement, la police de Fourier, ce qu'il propose est assez sain, etc. Mmh. Sauf qu'en effet, s'il l'appliquait à lui-même, ce serait le premier à être mis dans la prison de sa police de Fourier, quoi. Donc, il demande juste qu'un fait est un fait, qu'on ne critique pas avant que ce soit vérifié, etc. Enfin, des choses assez saines qui existent plus ou moins dans le monde scientifique. Je dis plus ou moins parce qu'il y a quand même des modes et des théories, bah, comme la relativité ou la mécanique quantique, sont largement critiquées avant quand elles arrivent, quoi. Donc.
Oui, tout à fait. Mais évidemment, par exemple, voilà, tu cites Charles Fourier, l'opposition à l'Académie des sciences. C'est incroyable comme on peut voir. Tu prends un bouquin de Marat, Les charlatans modernes, 1791, contre l'Académie des sciences. Hein, donc c'est eux les charlatans modernes. Tu prends Fourier, 1830, enfin ses diatribes contre l'Académie des sciences. Tu prends Auguste Lumière, 1942, en plein Vichy, les fausses, où il était assez sympathisant d'ailleurs, les fossoyeurs du progrès. Tu prends Maurice Allais, un livre contre l'Académie, c'est toujours le même livre, en gros, c'est toujours les mêmes arguments, alors que c'est des contextes historiques très différents. C'est toujours les mêmes critiques contre l'Académie des sciences. Alors, je dis pas que l'Académie des sciences soit le nec plus ultra, si tu veux, mais je veux dire, voir tout le temps les mêmes critiques répétées, et c'est un truc aussi de voir les mêmes arguments qui reviennent à travers les périodes historiques. C'est ça qui m'a frappé, si tu veux, par exemple, l'argument de l'apparence de vieillesse chez les créationnistes, enfin, je vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus, mais l'apparence de vieillesse, c'est Dieu a créé la Terre il y a 6 000 ans, mais comme si elle avait 13 milliards d'années, déjà 13 milliards d'années moins 6 000 ans, tu vois, donc ils veulent se conformer au Big Bang là-dessus.
L'apparence de vieillesse, c'est de dire qu'elle a été fabriquée il y a 6 000 ans, mais que Dieu a laissé des traces de...
Voilà, c'est ça, la lumière en transit, c'est-à-dire les étoiles avaient 13 milliards moins 6 millions, moins 6 000 ans, enfin, c'est une théorie totalement délirante. Et cette théorie, tu la trouves dans des sites créationnistes américains, ça s'appelle la théorie du light in transit, lumière en chemin, en transit. Mais tu la retrouves, Russell, en 1935, la critique chez un scientifique de 1880, tu retrouves Chateaubriand dans sa défense de la religion, parle de l'apparence de vieillesse aussi. Donc, si tu veux, c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent. Je te cite. Enfin voilà, donc on pourrait dire que l'alterscience bégaye, se répète en permanence, tandis que la science finalement, elle avance. Bon, heureusement d'ailleurs. Enfin bon.
Alors juste une anecdote là sur du bouquin bien sûr sur ce côté d'avoir créé la Terre déjà vieille, c'est que ça crée des paradoxes chez les astères scientifiques qui doivent résoudre, où ils se disent faut quand même qu'on comprenne. Ils se demandent pourquoi Dieu étant bon, pourquoi il a créé une Terre en mettant des faux indices et qui du coup leur fait perdre du temps, leur trompe, etc. alors qu'il n'est pas censé faire ce genre de choses. Et ce qui est amusant, c'est que même dans leur délire, ils ont des problèmes théoriques à résoudre pour avancer. C'est quand même rare, hein, parce qu'en général c'est assez figé, mais là c'était un exemple.
Mais oui, mais c'est des scientifiques, quoi. Moi, ce scientifique américain là, c'est un astrophysicien, quoi. Donc Russell Humphreys, il fait de l'épistémologie créationniste. Hein. Il dit, il est bon qu'une théorie créationniste en chasse une autre. comme dans le monde séculier. Enfin, ça va loin. Le monde séculier, ça veut dire c'est la science séculière, quoi. Hein. On sait tous que quand on met un adjectif à science, faut dresser l'oreille, hein, toujours. Donc, que ce soit science allemande, science juive, science citoyenne, on peut en parler. Science séculière, je dresse l'oreille. Et donc, il dit, il est bon qu'une théorie créationniste en chasse une autre, quoi. Il fait de l'épistémologie. Pareil, t'as un mathématicien français qui, alors, dans des cercles assez durs, hein, fraternité de Saint-Pilis, etc., qui croit au Saint-Suaire, hein, il se présente mathématicien épistémologue. Il dit la radioactivité, c'est n'importe quoi sur le linceul de Turin. Moi, j'ai ma science, la science de la preuve. Je vais vous expliquer pourquoi c'est bien le linceul du Christ, donc la preuve que de l'existence du Christ. Enfin voilà, donc il y a une épistémologie.
Oui, tu voulais dire quelque chose, Alan ?
Non, j'allais me proposer de te céder enfin la parole.
Ah oui, c'est gentil. Ouais, j'ai divisé en plusieurs thématiques. Bon, de toute façon, on va parler. J'ai déjà commencé par parler de la dernière en premier. Enfin bref, voilà. Une des premières thématiques qu'on va revenir très très souvent, c'est la notion de bon sens, de rejet des théories en disant parce que ça contredit le bon sens. Alors ça va bien sûr de Copernic et de sur l'héliocentrisme de dire non. Enfin, je vois très bien le Soleil tourner autour de la Terre. Je vois pas pourquoi ce serait la Terre qui tournerait autour du Soleil. Il y a pas de raison. Jusqu'à des choses comme la théorie Einstein où on parle de dissonance cognitive, de dire enfin là dire que les dimensions peuvent se réduire, etc. Enfin ça sent tout ça. Alors bon, on comprend hein, qu'il y a un rejet du bon sens, etc. Moi, une question que je me posais plus là-dessus, c'est que typiquement sur la Terre tournant autour du Soleil, que ça, c'est une question de référentiel, une question de point de vue. Et il y avait des moments où on voyait que certains ne rejetaient pas de dire les planètes ont des trajectoires un peu bizarroïdes, mais on considère qu'elles tournent autour de la Terre. Et du coup, il y a des questions de point de vue, de référentiel. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est que je vais y revenir, c'est le côté... Il y a de la mode qui existe en science, où il y a des théories qui sont préférées par rapport à d'autres, parce que soit elles sont plus simples, ou parce qu'elles sont mieux communiquées. Et des fois, on se demande s'il n'y a pas des alters scientifiques qui ont cette sensation-là, et sans arriver, bien sûr, à la formuler. Bon, il y a toujours ce côté démarche qui n'est pas là, hein, mais...
Ouais, alors là, c'est vrai que... Ben, là, tu fais référence, par exemple, le système de Copernic, c'est une révolution scientifique par rapport au système de Ptolémée. Hein. La relativité, c'est une révolution par rapport à la théorie de l'éther de Fresnel. Et il faut voir que, aussi bien dans le système de Ptolémée que dans le système de l'éther de Fresnel, on essayait de faire rentrer des faits au forceps dans la théorie. C'est-à-dire, la théorie n'en pouvait mais, hein, en quelque sorte. Hein, et un jour, elle a craqué, finalement, la théorie. Hein, donc, Copernic et Galilée sont arrivés, et puis Einstein et d'autres, bien évidemment, sont arrivés. Il y a comme ça des ruptures épistémologiques, c'est vrai. Là, on en est très loin avec ce dont on parle, à mon avis. Enfin, c'est des gens qui ne... D'abord, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, la relativité, c'est une des théories les mieux vérifiées de la physique, voire de la science. Bon, elle n'est pas éternelle, bien évidemment. Donc, étant une des mieux vérifiées, on n'est pas vraiment à un moment où il y a des choses qu'on comprend pas du tout et que, enfin, en tout cas, c'est pas avec les arguments que donnent les gens que je cite, les alters scientifiques que je cite, que je serais convaincu qu'une nouvelle théorie va sortir. Quoi, c'est vraiment. Ils disent d'ailleurs. Ils disent la relativité a fait perdre un siècle à la physique, ce qui est pas vrai puisqu'elle a apporté plein de choses par ailleurs, presque des outils comme le GPS, mais aussi c'est la boîte à outils de l'exploration spatiale. Donc c'est des gens qui ne s'intéressent même pas aux applications qu'a pu avoir la relativité.
Des fois ils les méconnaissent.
Oui, ils les connaissent pas. Oui, ils s'intéressent pas, ils les connaissent pas, ça les intéresse pas.
Ou alors ils les acceptent. En partie. Je me souviens d'un exemple, t'en parleras mieux que moi, où ils disent « Bon, d'accord pour les planètes, les mouvements des planètes, la relativité, tout ça, sauf la Terre. La Terre reste au centre, etc. Reste, ça va, mais pas la Terre. »
Ou bien ils disent, ils mettent sur un piédestal Einstein, et puis ils disent que c'est les Einsteiniens qui ont déformé sa pensée. Pareil, Darwin, vive Darwin, mais c'est les Darwiniens qui ont écrit n'importe quoi. Ça, tu le trouves, c'est toi qui citais Lysenko. Lysenko disait, ce sont les Darwiniens qui ont altéré la pensée de Darwin, quoi. Donc, on n'est pas un paradoxe près, en fait, hein, dans leur raisonnement. Et c'est vrai que, bon, peut-être du mal à suivre le fil, là, puisque c'est vrai que c'est des raisonnements très très foisonnants qu'ils ont, hein, et encore une fois, ils sont pas à une contradiction près. On l'a vu avec l'exemple du fait que ils considèrent qu'un fait est un fait et que le fait prime sur la théorie, mais eux, leur théorie, ils la soumettent pas à l'épreuve des faits et à l'épreuve de la critique, quoi.
Mais ça me fait rebondir donc sur la notion de bon sens et sur le fait de rajouter au forçat des éléments et tout ça. Moi, ça fait résonner énormément de choses sur la science contemporaine.
Ouais.
Quand on parle d'énergie noire, quand on parle de constante cosmologique, quand on parle même dans une certaine mesure, même si c'est une preuve, du boson de Higgs, au sens où c'est quelque chose qu'il faut faire un million d'expériences, mesurer statistiquement pour réussir à mesurer un pouillème. On se rend compte qu'on... Alors là, c'est une vraie preuve scientifique. Les deux autres où j'ai donné un exemple, c'est des choses où on a vraiment l'impression d'être dans une limite d'une théorie où, au forçat, on constante, on la fait varier, ou alors on a un truc, on dit 80% de ce truc, on sait pas ce que c'est, il a des propriétés extrêmement bizarres, mais voilà, c'est ce qu'on a de mieux comme modèle. Là, je parle de l'énergie noire.
Oui, oui, oui.
Et c'est, de toute façon, c'est ce que questionne le bouquin en permanence, c'est que je me demande où est la limite entre science et alterscience, parce que...
Ah mais non, mais là, Nicolas, en effet, comme tu disais, il y a des effets de mode, c'est-à-dire que il y a peut-être trop de gens qui travaillent sur la théorie des cordes ou la matière noire.
Des cordes était la troisième, Alan pensait à citer justement dans ces exemples un peu étranges, pas étranges, mais qui sont encore où on sent que ça recherche et que peut-être qu'on en rira dans. La matière noire peut tout à fait être un nouveau éther. Hein, c'est pas.
Oui, d'accord, mais j'ai pas dit que l'éther était de l'alterscience. Moi, c'est vraiment des critiques contemporaines. C'est des gens qui ont une certaine idée de la science et qui critiquent de manière totalement désordonnée la science contemporaine. Donc, tu cites des exemples qui sont pas mauvais. C'est des effets de mode. Il peut y avoir beaucoup de gens sur la théorie des cordes, sur la matière noire, etc. D'un autre côté, ils soumettent leur théorie à l'évaluation des pairs. En effet, peut-être il y a des effets où chacun veut continuer à faire travailler son labo. Moi, généralement, malheureusement, c'est pas forcément des grands scientifiques non plus dans ces cas-là. Là, on parle de gens qui sont tout le temps dans la vitupération, la revanche, l'attaque permanente. Alors, il y a peut-être ça aussi dans la science actuelle, mais je veux dire, je cite l'exemple de l'expérience Opéra là du CERN à Genève là. Entre Grande Sasso et Genève, au début on a dit peut-être que la théorie d'Einstein est remise en cause, il y a des vitesses supraluminiques.
Donc là tu parles des neutrinos, hein,
qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, croyait, et finalement ça a été...
Voilà, et finalement, donc c'est un bel exemple que je cite du fonctionnement scientifique, finalement, ça c'est des gens qui ont su se remettre en cause. Tandis que chez mes gugus, là, quelqu'un comme Lucien Romani qui défend les rayons N 80 ans après, c'est des gens qui persistent dans l'erreur, ils soumettent pas aux autres, ils fonctionnent en circuit fermé. Moi je suis allé dans un autre exemple où je suis allé, c'est ces colloques où il y avait Maurice Allais quand il était en vie, mais il y en avait d'autres aussi qui avaient leur propre théorie, et chacun y allait de sa propre théorie scientifique, sans construction scientifique commune, hein, bien évidemment. D'ailleurs, ils ne s'intéressent pas à la théorie de l'autre, d'ailleurs. Chacun y va de son... C'est une mise en valeur de chacun d'eux. Donc, je trouve assez différent, même très différent, des effets de mode qui sont autre chose, qui sont un autre sujet, quoi.
Alors, là-dessus, de toute façon, c'est vrai qu'il y a une différence très importante, c'est ce que tu as dit un peu au début, c'est que eux, enfin quasiment tous, refusent les mathématiques, ce qui fait qu'ils n'écrivent pas tellement d'équations et donc ils peuvent pas trop vérifier ce qu'ils racontent, et c'est beaucoup plus de la parole, du blabla, enfin de ce que j'en ai compris, parce que moi j'ai pas été dans les livres des alters scientifiques pour le coup. Et voilà, il y a un vrai rejet. Alors j'ai des citations genre « si c'est un progrès », ils se demandent si c'est un progrès de chercher à ramener de la physique à la géométrie. Enfin, il y a une vraie peur du calcul, et c'est même assez étonnant parce qu'il y a beaucoup d'alters scientifiques, comme tu disais, qui sortent de grandes écoles, polytechniques, centrales, et qui rejettent complètement les mathématiques dans leur théorie, quoi.
Alors, bon, ça c'est un paradoxe apparent. Peut-être je reviens plus généralement sur l'aspect, j'ai appelé ça moi le rejet du signe et le désir du tout. C'est-à-dire, c'est vraiment très frappant de voir, mais ça c'est dans des discours, encore une fois ça rejoint la question sur pour qui j'écris, c'est une grille de lecture à mon avis. Voilà, le rejet du signe, je dis pas qu'il faut mettre des maths partout, mais quand j'entends systématiquement critiquer l'utilisation de mathématiques, je dresse l'oreille là aussi, ce que j'appelle le rejet du signe. Hein, le rejet du signe, ça veut dire, voilà, on rejette le signe mathématique. Voilà, c'est une critique permanente du signe mathématique. Parfois, il y a des choses qui sont, il y a trop de mathématiques en effet, mais quelqu'un qui dit systématiquement rejet du signe et qui fait appel à une science unifiée aussi. Alors là aussi, il y a beaucoup de chercheurs qui, tant mieux, qui cherchent une physique unifiée, etc. Mais ils la cherchent sur avec des méthodes valables. Là, on parle de gens qui systématiquement rejettent le rejet du signe et font appel à une espèce de science de holisme, ce qu'on appelle le holisme, c'est-à-dire la science du tout, la réunification, toutes les sciences entre elles. Ben, c'est des vœux pieux, des wishful thinkings, tout ça. Il y a pas l'ombre d'un commencement de quelque chose. Alors là, sur le paradoxe que tu décris, j'ai essayé d'y réfléchir, oui. C'est très prétentieux, c'est-à-dire, je vais te dire jusqu'où ça va, ce que j'ai réfléchi, j'avais l'occasion dans ma tête. Par exemple, ils disent la relativité générale. Alors, la relativité générale, c'est plein d'équations. La relativité restreinte, c'est assez simple à comprendre, mais la relativité générale, c'est plein d'équations, c'est les tenseurs de Levi-Civita, etc. Bon, c'est pas très simple à comprendre. Ils disent, ça ne peut pas être aussi compliqué au point que je ne le comprenne pas. Voilà, c'est pas possible que moi je ne comprenne pas quelque chose. Hein. Voilà, c'est ça qu'il y a dans leur tête aussi. On sait qu'Einstein a quand même mis 10 ans à faire cette théorie. Je parle de la relativité générale.
Et puis il a été aidé de mathématiciens la formaliser
par Grossman, par Minkowski. Et donc, eux ils disent. C'est une prétention suprême de dire c'est pas tellement un rejet du signe mathématique dans ce cas-là que de dire ça peut pas être si compliqué parce qu'en fait comme moi qui suis bon en maths j'y comprends rien ça veut dire que c'est faux quoi c'est là jusqu'où ça va quoi enfin,
alors ce qui est marrant c'est qu'il y a des rapports là-dessus sur le fait de moi je comprends pas c'est pas normal qui sont variables c'est-à-dire il y a aussi une époque où certains qui disaient c'est pas possible qu'on arrive à théoriser le monde parce que c'est une prétention immense par rapport à Dieu qui lui a écrit les équations et donc on peut pas comprendre les équations de Dieu. Et inversement un peu plus tard aussi où tu expliques qu'il y en a qui disent à l'inverse on a trouvé l'équation de Dieu donc il faut l'appliquer partout. Ça marche pas qu'en physique, ça marche partout. Donc un rapport aussi pareil au fait de trouver un truc qui marche, un truc qui marche pas, un rapport avec Dieu qui
c'est-à-dire que à chaque fois dans les deux cas que tu cites on se prive de la capacité de raisonnement de toute façon tout a été écrit par Dieu il y a ça moi j'étudie d'un certain fondamentalisme islamique hein il y a ça qui est encore assez présent la science a été écrite dans le Coran donc il y a des choses qui là aussi on se prive d'une capacité de réflexion. Je pense que la science a été l'émancipation de l'homme de la religion en fait aussi. Et que ça bien évidemment c'était la connaissance mais ça a été aussi l'émancipation de la religion et chez tous ces créationnistes, il y a quelque chose qui m'a frappé qui est incroyable, c'est qu'ils essayent d'expliquer la religion par la science, c'est-à-dire c'est des gens qui aiment tellement la science. Pour eux, la science est première. Ils essayent d'expliquer la religion par la science. Si je peux me permettre de citer rapidement une phrase de Vercors, l'écrivain Vercors, hein, celui qui a écrit Le Silence de la mer, qui a écrit un très beau livre, là, tu parlais de science-fiction, Alan, là, tout à l'heure, là, un très beau livre de science-fiction, qui s'appelle Les animaux dénaturés, 1954, c'est une expédition, à la recherche du maillon manquant, là, on parlait beaucoup comme ça à l'époque, là, dans l'évolution.
C'est le genre de phrase qui maintenant fait tilter un de nos amis blogueurs là.
Oui, tout à fait, absolument. Oui, il a raison d'ailleurs. Je vais rapidement parce que on peut pas trop argumenter, mais il fait dire un de ses personnages Vercors et je dis la phrase lentement parce qu'elle est savoureuse et il parle de l'orthogénisme. L'orthogénisme, c'est une sorte de créationnisme, c'est penser que l'évolution a un but. La théorie actuelle néo-darwinienne, l'évolution n'a pas de but. Donc son personnage, qui est un scientifique, qui fait partie de l'expédition, il dit ce n'est point pas parce que croit en Dieu qu'il est orthogéniste, c'est parce qu'il est orthogéniste qu'il croit en Dieu. C'est une phrase très forte, ça. C'est parce qu'il est orthogéniste qu'il croit en Dieu. C'est-à-dire, il va chercher dans la science l'épreuve de sa foi. Et ça, ouais. C'est quelque chose c'est quelque chose de tout à fait étonnant. C'est même plus du concordisme. C'est des gens qui sont de formation scientifique, qui ont la science tellement chevillée au corps, qui veulent démontrer Dieu, qui sont écartelés entre leur foi et leur amour pour la science. C'est comme ça que j'essaye de les décrire, et je donne plusieurs personnages comme ça dans diverses religions finalement, qui sont assez étonnants. Ouais.
Et alors, en plus, quand on met Dieu en fait dans le lien à la science, forcément, on a une science qui est parfaite, qui peut plus évoluer, quoi. Parce qu'on va pas se permettre d'aller corriger Dieu ou d'aller l'améliorer.
Ah oui.
Alors là-dessus, il y a plusieurs passages. Enfin, il y avait un passage de Lévi-Strauss qui disait que la science escompte toujours une réponse différente, tandis que le bricoleur altère scientifique. Donc c'est plutôt une phrase du bouquin. Donc où tu dis le scientifique escompte toujours une réponse différente, tandis que le bricoleur altère scientifique ne se fait que se conforter dans des réponses qu'il a déjà, des codes préappris, des réponses se répéter à l'avance. Alors ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant, parce que c'est une différence pour moi qui est claire entre alter scientifique et scientifique.
Oui.
C'est que on en a parlé lors de notre émission sur l'évolution. Un des éléments clés, la science, oui, c'est ça, c'est qu'elle est jamais parfaite, elle attend qu'avoir des résultats, et qu'en fait, ce qu'on a vu avec les neutrinos, c'était non pas de dire, regardez, j'ai réussi à tuer Einstein, c'était de dire, j'ai un résultat que je comprends pas.
Oui.
Il y a quelque chose à faire là, le monde scientifique. Et c'est vrai que c'était une différence importante. Je sais pas.
Ça c'est Lévi-Strauss, la pensée sauvage, très beau livre, 1962, là, il parle de la pensée sauvage, cette bricoleuse, et tu peux appliquer, c'est ça que j'essaye d'appliquer à l'alter-science, et des résultats, je sais plus ce qu'il dit, des résultats connus d'avance. T'as ça dans le créationnisme, c'est Dieu qui a tout expliqué. Mais t'as ça chez ces ingénieurs cranks aussi, qui disent ce que je disais tout à l'heure, quoi. Il n'y a pas de construction scientifique commune. Ils ont leur théorie, ils l'ont eue généralement sur le tard à 45 ans, et jusqu'à 90 ans, ils la défendront telle quelle, sans la modifier. Hein. D'ailleurs, par exemple, chez Allais, c'est assez amusant. Dans les années 50, on ne parle pas tellement d'Einstein, c'est l'étiage de la relativité, dit son historien Jean Eisenstadt, il a raison. Donc Allais, il dit « j'ai remis en cause la théorie de Newton ». En 2000, quand c'est l'année mondiale de la physique, il dit « j'ai remis en cause la théorie d'Einstein ». Et voilà, il se met en opposition, quoi. C'est des théories qui n'évoluent pas, c'est des théories qui sont totalement figées. Même pas des théories, d'ailleurs, c'est des propositions totalement figées.
Et parfois même basé sur des bouquins que les gens qui suivent après la théorie n'ont pas lu. Enfin, alors bon, là on va passer sur une thématique. Alors là, c'est quasiment tout le bouquin. De toute façon, c'est ce que tu disais en introduction, c'est ce qui est des combats idéologiques, réseaux de pouvoir, théorie du complot, monde qui refuse de publier, etc. Moi, là-dessus, il y a un truc qui m'a fait un peu rebondir, un peu sur les combats, les réseaux de pouvoir, etc. Alors bon, on a bien compris que c'est pas la même démarche du tout, hein, mais quand on a reçu ici Nicolas Gizin sur la mécanique quantique, il nous parlait de la théorie de l'intrication. Il disait qu'ils avaient des équations qui marchaient, mais qu'ils n'arrivaient pas à raconter la bonne histoire pour l'instant. Ils n'avaient pas une histoire convaincante de qu'est-ce que c'était. C'est-à-dire, les maths, c'était bon, on vérifiait, mais on ne savait pas comment expliquer avec les mains ce qui se passait. Et c'est vrai qu'en physique, il y a eu plusieurs moments dans l'histoire où il fallait trouver la bonne histoire. Il y a eu une histoire qui a gagné par rapport aux autres, et qu'il y a d'autres histoires alternatives qui utilisent les mêmes équation, donc c'est là où je dis qu'il y a une grosse différence avec l'alter scientifique, qui ont pas pris, en fait, soit parce que c'était plus complexe, soit parce que c'était moins bien présenté, soit, etc. J'ai l'impression que ces histoires de réseau de pouvoir, théorie du complot, ça fait partie pour moi, dans leur critique, j'ai l'impression qu'il y a un fond de critique qui est intéressante et constructive sur le monde de la science, et qui après est bien sûr noyée dans toute une pratique qui est un peu délirante.
Alors, il me semble qu'il y a deux choses dans ce que tu dis quand même, parce que tu l'as dit à partir de la personne que tu as reçue,
Nicolas Gizin.
Distinguons ce qui est la façon dont on présente un résultat scientifique et le résultat scientifique lui-même. Hein. Alors, en effet, on peut raconter des histoires et ça, oui.
C'est là où je différencie bien. Les équations qui marchent, c'est
plus
important.
Ça, on est d'accord. Okay, parce que tu peux raconter l'histoire que tu veux. Tu peux vendre les choses comme tu veux pour obtenir des budgets, etc.
Mais c'est ce qui fait aussi avancer parfois la science. Il y a quelque chose qui est très peu traité. Moi, on va en parler un jour dans le podcast quand je trouverai les autres. C'est l'ergonomie l'autonomie des sciences. Et il y a des moments où la science a avancé parce qu'elle a été mieux présentée et que les gens arrivaient du coup à s'y mettre. La mécanique quantique, c'est un peu le cas. On a eu des notations qui ont simplifié beaucoup la façon de la faire.
C'était oui, les mêmes calculs derrière, mais ça... à plusieurs reprises d'ailleurs. Oui, voilà. La première théorie des quantas.
La relativité, si on utilisait encore les notations d'Einstein, on avancerait beaucoup moins parce que c'était des notations que seul lui utilisait.
Donc voilà, je souhaite, y compris vis-à-vis des matières comme la sociologie des sciences, qui voit la science comme un enjeu de pouvoir, etc. Ce qui est pas faux parfois, bien évidemment, mais n'oublions pas quand même ce qu'est le résultat scientifique. Entre la présentation du résultat, la façon dont on le vulgarise, la façon dont on obtient les budgets, etc. Et le résultat lui-même, faisons quand même un distinguo, quoi. Après, on est trop dans, et je pense que Guizin sera d'accord avec ce que je dis. Lui, il les avait, les équations.
Oui, bien sûr.
Donc, il savait qu'il tenait le bon bout, quoi. Et il savait que c'était pas forcément le truc éternel.
Et justement, moi, une des choses qui m'a étonné et qui va peut-être, dans 10 ans, il y en aura un qui aura gagné, c'est que ça ne lui suffisait pas. Moi je viens du monde des maths appliquées, en mathématiques on a l'équation, c'est fini. Et lui il avait besoin de trouver la bonne histoire, la bonne façon de raconter son résultat.
Façon de la mettre d'un résultat dans une théorie, parce que
vraiment façon de raconter, c'est-à-dire que là ça rentrait dans la théorie mécanique quantique, façon d'expliquer pourquoi il y a deux éléments qui sont très loin, qui vont être liés, donc raconter ça soit en disant il y a une dimension supérieure, mais ça le convainquait pas, soit en disant il y a quelque chose, alors il a démontré que c'était pas possible, qu'il va plus vite que la vitesse de la lumière, soit, enfin, il y a des possibilités comme ça, il a montré que c'était pas possible, enfin, jusqu'à, je crois, 50 ou 100 fois la vitesse de lumière, donc il reste encore des possibilités,
Non, mais là, il cherche quelque chose qui est scientifique, là. C'est pas une histoire qu'il raconte.
Ben, je peux me permettre d'intervenir. Pardon.
C'est Robin, donc.
C'est Robin qui est arrivé dans l'intervalle.
Je suis arrivé très en retard, mais ça fait un moment que j'écoute. Non, mais il me semble que dans une théorie scientifique, et y compris d'ailleurs dans les mathématiques, il y a une part qui est des équations, qui est la logique pure, mais il y a une part d'intuition qui arrive en plus. Sinon, on crée rien. Sinon, on n'a pas une théorie, quoi. Bien, je pense que c'est de ça que tu parles, Nico.
Ouais. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est typiquement, les acteurs scientifiques, à la limite, n'auraient que l'intuition. Il leur manquerait, après, tout le reste, c'est-à-dire les expériences, la théorie.
Mais c'est ça. Exactement. Mais c'est ce que tu dis quand tu dis l'histoire à raconter, c'est pas tellement sur la vulgarisation, c'est juste essayer d'avoir un cadre théorique autre que juste des équations pures, sinon on fait rien.
Une théorie sans faits ne vaut rien, mais des faits sans théorie ne parlent pas, quoi. Je sais plus qu'est-ce qu'il disait ça, c'est fondamentalement vrai, quoi. Et mes alters scientifiques, ils ont un bout de théorie quelque part, un bout de fait quelque part, et il y a aucune vision et aucune façon de se remettre en question non plus, quoi.
Ouais. Bon, alors, au niveau des autres sujets, alors moi qui m'ont beaucoup étonné, alors on le connaît, hein, c'est le rejet des théories importantes. C'est un peu ce que tu dis à un moment, rejeter la relativité au moment où elle arrive, on comprend. Rejeter aujourd'hui, on comprend beaucoup moins, étant donné le nombre de preuves qu'il y a à éprouver. Il y a un exemple, moi, qui m'a énormément parlé, c'est des gens qui disent que la tuberculose n'est pas contagieuse. C'est le genre de fait, je comprends pas comment on peut le contredire, parce qu'on l'a sous les yeux, en fait. Là, c'est vraiment encore la relativité, bon, on l'a pas sous les yeux. C'est un peu compliqué, en effet. Mais la tuberculose, le fait que ça soit contagieux...
On mettait les gens dans des sanatoriums encore récemment.
Oui, mais donc, du coup, on se rendait compte qu'il se passait quelque chose. Je veux dire, c'est...
T'as le VIH qui n'existe pas, sinon, dans ce genre de...
Ouais, mais tu vois, pareil, le VIH, à la limite, tu peux dire, c'est un autre virus, c'est quelque chose. Là, t'as la tuberculose, t'as deux personnes, tu vois assez facilement s'il y en a une qui transmet à l'autre. Je veux dire, il y a...
Mais alors, allons jusqu'au bout, là, parce que c'est Auguste Lumière, là, l'inventeur du cinématographe. Là, c'est un cas incroyable, parce que c'est un des deux frères Lumière. Son frère est couvert d'honneur, le cadet est couvert d'honneur, membre de l'Académie des sciences, etc. Lui, il est beaucoup plus ombrageux, et il passe sa vie à récriminer. Et puis, il se pique de médecine à partir de la Première Guerre mondiale. Il fait des clichés avec les plaques photographiques lumière, c'est les premiers clichés de la radioactivité pour prendre des radios, pour prendre des radios des blessés, etc. Donc il se met à la médecine. D'ailleurs, il fait des inventions intéressantes. Mais alors, il se fixe sur la tuberculose et puis alors que le bacille a été isolé dans les années 1880, encore en 1950 avant sa mort, il écrit un truc contre le caractère contagieux de la tuberculose. Et il y a de l'idéologie chez Lumière. Il est mouillé dans le régime de Vichy. Il va te dire on sépare la femme tuberculeuse de son mari, donc le mari va prendre des maîtresses, etc. Il y a quelque chose de moral hein, chez Lumière, donc ça, à l'appui de sa théorie, quoi, enfin de sa théorie de son. Donc voilà, c'est des trucs un peu idéologiques aussi. Hein. Lumière, c'est pas un médecin. Auguste Lumière, ouais. C'est un ingénieur génial, c'est un inventeur du cinématographe, mais c'est sûrement pas un médecin. Hein, donc.
Mais par contre, il y en a qui sont des scientifiques. Ça, c'était une question d'Alan. Je sais pas si tu veux la faire, Alan. Quand tu disais ça t'étonnait que des gens intelligents avec un tel niveau d'éducation peuvent croire apparemment sincèrement qu'ils pourront faire rentrer des ronds dans des carrés et qu'ils vont se battre contre tous. Pourquoi ça se produit si longtemps par l'éducation? Enfin,
c'est une question qui me fascine, effectivement. Je me demandais, Alexandre, si tu as des hypothèses là-dessus. Est-ce qu'on peut l'expliquer? On a une idée?
Alors là, on rentre un peu dans le domaine de la psychologie. Alors, je veux pas moi trop sortir de mon domaine non plus, parce que ces gens-là sortent beaucoup de leur domaine. Écoute, moi, chez certains ingénieurs ou scientifiques âgés, d'abord, c'est à partir d'un certain âge. Hein, que ça se fait, hein, j'appelle ça la philopause, moi.
C'est joli.
Voilà. C'est des gens qui essayent de donner un sens à leur vie, quoi. C'est vrai que bon, à partir d'un certain âge, on est taraudé par cette idée de donner sens à sa vie. Et ces gens-là vont vivre, comme je disais tout à l'heure, avec leur théorie de 45 à 90 ans, sans la bouger, quoi. Alors après, t'as l'Internet arrive, alors c'est extraordinaire, ça. Ils font des sites, ils ont l'impression que leur théorie vit, d'ailleurs.
Dis même qu'ils ont une sorte d'amour un peu nostalgique des sciences de leurs études ou des sciences d'une certaine époque de leur vie qui a évolué depuis et qu'ils comprennent plus trop,
quoi. Ah oui, ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure là sur la relativité générale, quoi. C'est quoi ces équations que je ne comprends pas, moi qui suis sorti premier des écoles, comment ça se fait que je comprenne pas ces équations? Donc c'est forcément faux, quoi. Mais pour aller plus loin dans la question d'Alan là, c'est oui, je crois qu'il y a cet aspect à partir d'un certain moment, on essaye de donner un sens à sa vie. Et pour reprendre ce que tu disais, Nicolas, on revient à des amours de jeunesse. Et la science est un amour de jeunesse pour ces gens-là. Et voilà, ils restent fixés sur des théories comme ça. Bon, c'est une explication psychologique.
En fait, c'est un peu des vieux cons, c'est ça?
Ouais, tu peux appeler ça comme ça. Mais d'un autre côté, les gens qui essayent d'avoir combat, mais là c'est un mauvais combat qu'ils ont, hein. Ça c'est un mauvais combat qu'ils ont, c'est... donc on peut dire que l'épithète que tu as utilisé là.
Alors, juste pour revenir toujours sur le rejet des théories importantes, donc ils rejettent Newton, Einstein, Darwin, ils s'attaquent pas quand même à des petites cibles, quoi. Et moi j'étais assez étonné de ça, enfin je sais pas, quitte à aller promouvoir une science alternative, vaut mieux s'attaquer à quelqu'un d'un peu moins universel que des Darwin, des Einstein, des Newton, quoi.
Bah ça, c'est... Il faut que ça parle au grand public, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis ces théories, et puis ça leur parle à eux. C'est-à-dire que le reste, ils s'intéressent pas tellement à la science contemporaine. En revanche, Newton, Darwin, Einstein, ça leur parle, quoi. C'est vrai qu'il y a quand même c'est vrai que ça, c'est ce qu'on appelle, je crois, il y a un terme savant pour ça, l'encomiastique, c'est-à-dire le culte des personnes célèbres, en fait. Et c'est vrai que bon, on peut jeter à la pierre dans notre jardin, nous-mêmes scientifiques, d'avoir fait des icônes de ces gens-là aussi, parfois avec des années Einstein 2005, des années Darwin 2009. Alors souvent, ça se manifeste à ces occasions-là, quoi, ces rejets, année Darwin 2009, c'était tout à fait étonnant. Donc, c'est quand même des théories structurantes de nos matières, hein, de la physique, d'une part, de la biologie, d'autre part, hein. Donc, ils ont pas froid aux yeux, ils s'attaquent à ces théories structurantes-là, quoi, parce que ils les comprennent pas, pour d'autres raisons que j'ai expliquées tout à l'heure aussi. Donc, non, en effet, si tu t'attaques à quelque chose de petit, ça veut dire que tu commences à faire de la science, finalement. Tu commences à contester un résultat donné. S'attaquer à une théorie globale, tu t'attaques à une théorie globale plus, par des propos globaux, finalement.
Et en plus, tu peux finalement t'attaquer non pas à la théorie, mais à l'image que les gens ont de la théorie, quoi. Et du coup, ça simplifie aussi la problématique.
Oui, alors parler directement au grand public. Ouais, voilà. Alors, parfois, oui, c'est ça. Il s'attaque sur des à des théories globales avec des propos très globaux, quoi. Donc.
Alors, et dans les trucs aussi étonnants, on découvre dans le livre que la plupart des anti-relativités sont aussi des anti-Darwin. Et je me demandais si c'était toujours le cas ou si c'était un peu un biais de la sélection.
Bah, écoute, là, on peut regarder exemple par exemple, parce que c'est pas inintéressant, je pense, parce que là, tu vois, par exemple, quelqu'un comme Maurice Allais, qui c'est vraiment un anti-relativiste, il se pique pas de biologie. Mais il fréquente des cercles, c'est ça qui, si tu veux, ces notions, enfin, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il fréquente des cercles comme celui qui constitue ma première étude de cas, là, le cercle de physique Alexandre Dufour, 1945-1980 à Paris. Il fréquente des cercles où, voilà, t'as plein d'anti-darwinistes, si tu veux. Donc, tu te retrouves dans le même cercle alter-scientifique, j'appelle ça, où t'as des anti-darwiniens, des polytechniciens créationnistes, des créationnistes, des anti-darwiniens, des anti-relativistes. Et voilà, c'est ce fonctionnement en réseau aussi qui ce cercle de physique là, des gens qui fonctionnent en réseau, encore une fois pas de construction scientifique mais de réseau mondain, de relations où ils se retrouvent, et c'est ça qui m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai créé ce terme aussi, parce que j'ai eu l'impression quand même d'un fonctionnement en réseau, par exemple sur internet c'est assez clair, mais pas seulement. Et oui, ce fonctionnement en réseau est intéressant. Alors, c'est pas une généralité. Tous les anti-relativistes sont pas anti-darwiniens, mais ils se fréquentent entre eux, quoi. C'est ça. Ils se citent entre eux.
Ouais. Justement, quand on est dans ces biais de sélection ou ces questions sur la sélection, il y a deux autres. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sortent des grandes écoles, surtout beaucoup de polytechniques. En fait, à part un cas de centralien ou deux, enfin Et alors, je me demande si c'est. Et donc, du coup, une très écrasante majorité de Français dans le bouquin. Je me demande si c'est parce que t'as pas eu le temps d'aller chercher au-delà de la France aussi, c'est une de nos grandes spécificités françaises dont on pourrait être fier. Et aussi étonnant, ça, on se remarquait ça avec Alan avant, en préparant, je me souviens pas avoir eu des femmes dans le bouquin, alter scientifique. Et donc je me demande si c'est juste, t'as pas fait exhaustif et donc t'es pas tombé sur une femme et t'es pas sorti de la France, ou c'est que ça a été concentré.
Ouais. Alors, attends. Moi, j'ai lancé un débat avec un nom qui s'appelle Alter Science et les marges de la science, etc. Je dis qu'on devrait étudier un peu plus ça. J'appelle ça aussi une histoire négative des sciences, hein, au sens où vraiment regarder ces marges de la science, c'est pas inintéressant, y compris pour comprendre nos sociétés contemporaines. Bon, donc après, j'ai fait une douzaine d'études de cas.
Oui, c'est pas
possible. Voilà. Bien sûr. Non plus. Alors, y a-t-il un
biais de sélection ? Mais c'était par curiosité. Mais t'as raison. Si
c'était. Y a pas de femmes. Ça, c'est vrai. Ça, j'en ai pas trouvé. Oui. Parce que. Surtout jusque dans les années 1900, avant Marie Curie, tu trouves pas beaucoup de femmes dans la science, hein, de toute façon.
Et surtout que là, ils ont une position un peu d'icône en plus. Et donc, en plus des icônes.
Il y a des icônes femmes, mais pas beaucoup là.
À cette époque-là.
Non, je suis pas tout à fait d'accord. Oui, c'est vrai, j'ai quand même pas mal d'exemples étrangers, hein. Quand je cite cet érudit, la Velikovsky, j'appelle ça au service d'un fondamentalisme juif, il veut montrer, pareil, la religion par la science, mais pas la religion biblique, enfin, pas la religion, pas la Genèse, comme souvent les créationnistes, mais l'Exode. Justifier l'ouverture de la mer Rouge, en fait. Il veut montrer l'ouverture de la mer Rouge par le passage d'une comète. Hein.
Ça, c'est assez amusant.
Oui, voilà, c'est passage, ça. Hein. Chacun voit midi à sa porte aussi, les créationnistes purs et durs.
Peut-être que je dis une très grosse bêtise, mais il y a des théories scientifiques qui parlent de marée pour expliquer ce passage, non ? Ou c'est n'importe quoi.
Bah là, de toute façon, c'est assez difficile que comme des théories scientifiques sur le déluge. Pour les vérifier, des théories comme ça.
Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de trouver un événement géologique qui pourrait, avoir donné lieu à la légende, quoi.
Ouais. D'ailleurs, les scientifiques jusqu'au 19e siècle, des Cuvier, ils ne raisonnaient que comme ça, d'ailleurs. Donc, encore une fois, la science s'est émancipée de ça. Donc, pour qu'on démontre un jour qu'il y a eu déluge ou ouverture de la mer Rouge, va falloir quand même
preuve
un peu...
qu'il y ait la construction de l'arche, va falloir...
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, avec les méthodes actuelles... Oui, pardon.
Pardon, non, si je peux encore me permettre d'interrompre. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux trucs très, très différents là, dans ce qu'est appelé alter science. Il y a des gens qui, d'une certaine manière, font trop confiance en la science et qui, donc, du coup, vont sortir des domaines d'application de la science, genre, je vais prouver l'existence du déluge ou de Dieu avec la science. Et puis il y a des gens qui au contraire commencent à plus réussir à avoir une démarche scientifique quoi sur des phénomènes qui peuvent tout à fait être l'objet de la science. Ça m'a l'air très très différent quand même ces deux choses-là.
Enfin, dans le premier cas, que tu cites, il s'éloigne de la démarche scientifique aussi. Enfin,
d'une certaine manière, moi j'ai l'impression de voir des gens qui font trop confiance en la science. Enfin, je pense à par exemple Gödel qui sur la fin de sa vie rédige une preuve de l'existence de Dieu ou des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est d'une certaine manière appliquer la science à des choses qui
sur lesquelles on peut pas les appliquer. Oui, mais
alors c'est très différent pour moi d'avoir des gens qui vont avoir un discours démonter la relativité générale ou des choses comme ça avec des arguments qui finalement ne tiennent pas la route d'un point de vue scientifique mais qui s'intéressent à une question qui est potentiellement traitable de façon scientifique quoi. J'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes.
Bah, de toute façon, c'est un peu un ruban de Möbius, c'est-à-dire qu'on est toujours les marges de la science, on est toujours. Tu me fais penser à quelque chose là quand tu cites trop confiance en la science. Bah, justement, moi, j'estime aussi que c'est une des radicalités contemporaines. On peut dire ça aussi parce que parfois on m'a dit que j'étais scientiste. Hein, je revendique un scientisme faible moi, mais il y a une hypertrophie scientiste aussi dans les gens qui sont anti-réchauffement climatique. C'est une hypertrophie scientiste. Ils veulent le mouvement de Lyndon LaRouche. Il veut nier complètement le réchauffement climatique parce que rien ne doit s'opposer à l'expansion de l'humanité. Hein. T'as des scientifiques aussi qui veulent envoyer des particules soufrées dans l'atmosphère pour réfléchir les rayons du soleil. Je trouve ça va loin, ce qu'on appelle la géo-ingénierie climatique. Quoi. Enfin, ça va très loin dans l'utilisation de la science. Quoi. Donc, il y a une hypertrophie scientiste aussi que je dénonce dans mon bouquin. Et ça fait partie des radicalités contemporaines aussi, ne serait-ce que par l'animosité que ça déchaîne en retour.
Ça, c'est un exemple contemporain extrêmement intéressant, le réchauffement climatique, oui. Parce que c'est vrai qu'au niveau du grand public, c'est pas du tout accepté, enfin, c'est partagé. Là où, au niveau scientifique, il n'y a pas, discussion.
Ouais, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça rebat les cartes en ce sens que. Oui, c'est des mouvements qui sont trop scientifiques, ouais. qui se retrouvent alter-scientifiques. C'est pour reprendre ce que Robin disait là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir trop confiance en la science aussi. C'est ça que je dénonce, c'est ça que j'appelle le ruban de Möbius aussi, parce que tu as à la fois une dénonciation bête et stupide ou totalement idéologique de la science, et une confiance aveugle et se servir de la science pour ses propres idéologies. Chez LaRouche, chez Minat, c'est des idéologies... profondément anti-britannique, complot britannique mondial aussi, et très pro-allemande. Enfin, j'explique ces idéologies-là, violemment anti-écologistes. Hein, voilà, attention à l'hypertrophie scientiste aussi. Donc, c'est plus, si tu veux, Robin, là, c'est plus le process alter-scientifique qui finalement m'a intéressé. C'est comment, soit en allant dans une direction, soit dans l'autre, on en arrive à mettre la science à sa propre sauce idéologique. Quoi. C'est ça qui finalement m'interpelle sur nos sociétés contemporaines. Quoi. Donc, mais t'as raison, ça peut être des démarches différentes, mais à la base, c'est quand même mettre la science dans sa propre idéologie, que ce soit totalement anti-science, comme des idéologies radicales actuelles, que ce soit totalement hyper-scientiste, comme je viens de dire, qui est aussi quelque chose qui va pas dans l'autre sens, le balancier, enfin voilà, donc c'est ce process là qui m'intrigue beaucoup, moi.
Alors, pour finir, moi, il y a un sujet où ça a été un peu ma découverte sur ce monde là c'est concrètement, on a bien compris qu'ils avaient leurs petites théories, ils avaient des fois leurs cercles et compagnie, mais il y a un côté un peu folklore, quoi, un peu clownesque, où on se dit, bon, ils font leur truc dans leur coin, c'est limite rigolo, c'est intéressant pour connaître mieux la science. Mais on se rend compte au bout d'un moment que ça peut avoir des conséquences très négatives. Et moi, c'est un peu ça que j'ai découvert. Bon, on avait déjà vu Lysenko dans un épisode de Podcast Science, où là, ça a été quasiment du recul de la science pendant des années. Il y a un autre exemple où tu dis que Saint-Simon et Lecomte seraient peut-être une conséquence d'un décrochement de la physique en France dans ces années-là. Enfin, du coup, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut pas juste les étudier, il faut même essayer de les combattre, en fait. Ça peut être négatif, c'est pas juste un folklore.
Ah oui, oui, mais bien sûr. Alors attends, il y a des conséquences dramatiques, il en existe, parce que le lysenkisme, quand même, il y a Vavilov, qui est quand même, qui était le grand biologiste soviétique, Vavilov, il meurt dans sa cellule, j'ai plus la date exacte, 41 ou 42, mais enfin, parce qu'il s'était opposé à Lysenko. C'était le grand biologiste soviétique, il était membre du parti, il s'est opposé à Lysenko, il est mort en prison, hein. Enfin, attention, hein. Donc c'est des choses, c'est les oppositions scientifique allait jusqu'à allait jusqu'à assez loin, hein. Donc là, ce que je dis sur Auguste Comte et Saint-Simon, oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, c'est un peu le début de l'hypertrophie scientiste, c'est-à-dire Saint-Simon prenait un gouvernement des savants, et puis Auguste Comte, lui, alors c'était le positivisme de la Troisième République, c'est-à-dire uniquement les faits et pas de théorie. Et les physiciens français, fin du 19e siècle, c'était très bon dans les faits. C'était une école d'optique, par exemple, à la théorie de Fresnel, tiens, les très grands noms, Fizeau, Mascart, etc. Et aucune ouverture sur la notion de théorie scientifique, quoi. Donc, et c'est normal. Après, la théorie de l'électromagnétisme, elle va se développer en Angleterre avec Maxwell en 1865. La théorie cinétique des gaz avec Boltzmann en Autriche, Allemagne, monde germanique en 1880 et quelques. La théorie de la relativité et celle de la mécanique quantique en 1905 en Allemagne, quoi. Et donc, en France, rien. Et donc, oui, ça fait prendre du retard à la physique française. Ça, ça a été admis par un certain nombre d'historiens de la physique. Oui, oui, oui.
Et là, d'une certaine sorte, le réchauffement climatique, ça, ça fait prendre du retard, au moins politiquement, typiquement, le fait que ce soit au niveau grand public, ça...
Oui, oui, peut-être que oui, oui. On ne connaît pas encore les conséquences.
Oui, c'est vrai.
Alors, je vais peut-être être provocateur aussi. On peut dire, par exemple, le fait qu'on fasse plus de biotechnologie en France à cause des oppositions anti-OGM, ça fait prendre du retard aussi, mais peut-être pas aussi.
Il y a des choses qui sont dures à dire dans le présent.
À l'heure actuelle, donc tout ceci est à regarder. Oui, oui, en effet, et parfois à critiquer. Oui, t'entends.
Ok, alors bon, moi j'ai à peu près fini sur les questions. Je vais juste finir un peu en hors cadre sur. Il y a plusieurs scientifiques et ça donnera un peu une idée du style qui essaie d'appliquer, enfin alter scientifique qui essaie d'appliquer les sciences dans le monde réel ou d'appliquer certaines sciences dans d'autres domaines. Donc j'ai une citation, ça va faire plaisir à Robin. Alors je sais plus de qui, je pense que tu retrouveras plus vite que moi. C'est ainsi, dans cette transposition des mathématiques à l'harmonie humaine, les propriétés de l'amitié sont calquées sur celles du cercle, l'amour sur l'ellipse, la paternité sur la parabole, l'ambition sur l'hyperbole, et enfin les propriétés collectives sur ces quatre formes, sur celles de la cycloïde.
Ouais, alors c'est un grand poète, c'est Charles Fourier, bien sûr. Mais Fourier, c'est aussi un poète. Parce que tous mes personnages, enfin ceux-là en tout cas. Fourier...
Mais ce qui est marrant, je trouve, c'est j'ai pris ces trucs pour finir. C'est il y a des mots scientifiques dedans. Il y a une sorte, on a l'impression qu'il y a un sens. Et en fait, si on voulait mettre une théorie scientifique derrière, on verrait que ça veut rien dire. C'est un peu ça.
C'est musique.
Oui, voilà, c'est ça.
Et tu sais que Fourier a inspiré le surréalisme, par exemple. Ouais. Breton se réclamait de Charles Fourier. Donc, il n'y a pas que des aspects négatifs.
Ouais, bien sûr. Et ça m'a fait penser à... Et Robin, ça a fait penser aussi au bouquin Flatland, qui se passe sur un monde plat... J'invite tous nos auditeurs à lire. J'en ai fini pour mes questions. Je crois qu'on a quelques questions d'auditeurs.
Absolument. Bon, on a un commentaire d'abord d'Axon qui nous dit « Je ne vois pas en quoi la géo-ingénierie est une hypertrophie scientiste ».
Oui, alors j'ai peut-être pas dit le bon nom, mais moi je dis simplement que envoyer des particules soufrées dans l'atmosphère pour c'est peut-être pas de la géo-ingénierie, je retire ce terme, si, mais envoyer des particules soufrées dans l'atmosphère pour réfléchir les rayons du soleil et ralentir le réchauffement climatique, je trouve c'est de l'hypertrophie scientiste, à mon avis. C'est ne pas se poser les questions sur peut-on ralentir notre croissance, etc. Peut-on faire en sorte que le réchauffement, restons plus neutres, peut-on faire en sorte d'arrêter le réchauffement climatique, enfin bon, voilà. C'est toujours plus de science, pas forcément
de technologie, plutôt
de technologie. Oui, enfin, envoyer des particules de soufre dans l'atmosphère,
on peut dire que c'est jouer à l'apprenti sorcier, mais je veux dire, c'est un truc technique, c'est pas plus de science. Là où c'est plus de science, c'est se dire qu'on va réussir à le gérer, quoi, mais...
Ouais, oui. Ouais, c'est pas facile de faire la distinguo entre sciences et techniques dans des cas comme ça, mais alors je sais pas ce que Axone pense, mais moi je pense que envoyer, ou ce que on peut ouvrir le débat là, mais envoyer des particules dans l'atmosphère, là, ça devient des solutions qui empêchent de se poser les vraies questions quand même sur le réchauffement climatique.
Ok, bah la question est lancée, on verra si Axone a quelque chose à répondre. Sinon rapidement, on a Erebus qui nous disait, alors c'était plutôt en début de présentation, très intéressant, qu'en est-il de Nikola Tesla?
Ah,
considéré comme un alter scientifique malgré ses qualités?
Ah, bah alors Tesla, c'est un très beau cas parce que je l'étudie, j'y consacre une partie de mon chapitre sur Valais. Alors Tesla, c'est un ingénieur génial. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour un certain nombre de mes personnages, pas tous. Mais Tesla...
Ah, c'est marrant ça, parce que ça se ressent pas spécialement dans le bouquin.
Par un Fourier, c'est un gars, c'est un poète aussi. Parce que je connais l'autre partie de leur œuvre que je...
Disons que moi, j'avais l'impression en lisant le livre, c'était même, ça a failli être de mes questions, je me disais, mais en fait, tu les aimes pas.
On aime toujours ces objets d'étude, ils sont finis par s'y attacher. Alors Tesla, ouais, c'est une très bonne question ça. Tesla, c'est un type génial, il invente le courant alternatif. En radio, c'est assez contesté entre Marconi, Tesla, voilà. Et à partir d'un moment, à partir des années 20, Tesla, il meurt assez vieux, en 43, on a fêté le 70e anniversaire, en janvier 43, il meurt. Tesla, à partir des années 20, il est plus sur le devant de la scène aux États-Unis. C'est des gens comme Einstein, justement, qui fait un voyage, etc. Einstein, c'est un théoricien. Tesla, c'est un ingénieur génial. Mais un ingénieur qui va loin qui révolutionne l'ingénierie, hein. Le courant alternatif, c'est pas n'importe quoi. Et Tesla, je dirais, dans une seconde partie de sa vie, il se met un peu à délirer. Il donne des interviews, la relativité, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'est mon compatriote Boscovitch. Alors, c'est quelqu'un du 18e siècle. Chacun trouve midi à sa porte pour en France, on va vous dire que les politiciens vous diront que c'est Poincaré. Tesla, il va vous dire que c'est Boscovitch qui l'a inventé avant, bien qu'elle soit fausse. Enfin, c'est assez compliqué à suivre. Hein. Et Tesla, il fait... Enfin, voilà, il donne des interviews à droite, à gauche. Enfin, il perd les pédales à partir des années 20. C'était une personnalité très ombrageuse. Et plus intéressant encore, la façon dont le mythe Tesla est récupéré aussi par des sites alors qui disent voilà, c'est la théorie du complot. Tesla, lui, il avait trouvé l'énergie cosmique universelle. Bon, ce qui est, je ne vois pas, je sais pas où est l'énergie noire ni la matière noire, mais alors l'énergie cosmique universelle, je ne sais même pas ce qu'ils entendent par là, quoi. Donc voilà, et il s'appuie sur Tesla pour ça, quoi. Donc parce que Tesla avait fait quelques élucubrations là-dessus à la fin de sa vie. Donc Tesla, c'est un personnage génial dans la première partie de sa vie, ambigu dans la deuxième partie de sa vie. Oui.
D'accord, donc il a été rattrapé par sa philopause, hein, c'est ça?
Voilà.
On a David Loureiro qui nous signale à l'instant dans la chatroom que Cantor a aussi un peu perdu pied vers la fin de sa vie.
Alors, sachant que Cantor, je crois que c'est plutôt mentalement qu'il a perdu pied, mais scientifiquement,
il a carrément, enfin, il a fini en hôpital psychiatrique, d'abord des petits séjours et puis de plus en plus long. Ouais. Oui, non, ça s'est très très mal fini.
Ouais.
Oui, c'est vrai que, par contre, Cantor me fait réagir sur quelque chose. Des alters scientifiques, des alters mathématiciens, ça n'existe pas, en fait. Parce qu'il y a le rejet des signes.
Et puis, comme tu disais, une fois que quelque chose est démontré en maths, c'est démontré.
Oui, c'est ça.
Physique, c'est substitutif, quoi.
On peut quand même en parler avec, Cantor, qui effectivement, Cantor, Gödel, il y en a un certain nombre qui ont fait des preuves de l'existence de Dieu ou des choses comme ça, enfin, dans la fin de l'art.
Oui, alors Gödel, Cantor, je crois pas qu'il ait fait, parce que...
Cantor, il a aussi fait une preuve de l'existence de Dieu, si.
Ah bon, d'accord,
si. Mais oui, lui, il croyait aussi des existences extraterrestres. Ou je sais plus quoi. Enfin, il y a des trucs complètement délirants sur la fin de sa vie. Mais je trouve intéressant aussi. Là, on donne l'impression que c'est toujours en vieillissant. J'ai quand même l'impression qu'il y en a pas mal pour lesquels ça va aussi un peu en parallèle, non? Ou c'est pas souvent. Je pense à Pascal, qui est quand même un exemple.
Blaise Pascal.
Ouais. D'une certaine manière, il prouve l'existence de Dieu à un moment donné, où il pense le faire. Est-ce que c'est après son œuvre scientifique?
Là, je trouve que tu vas un peu loin parce que Pascal, il vit 35 ans, enfin, je sais plus trop, mais enfin, il vit pas longtemps, donc on peut pas parler de deuxième partie de sa vie, hein, pour Pascal.
C'est bien, mais c'est pour ça que je pose la question. J'ai l'impression que ça peut aussi cohabiter, quoi.
Oui.
Et que là, c'est encore plus troublant.
Moi, ce qui m'a intéressé, j'ai quand même limité mon bouquin au au 20e et au 20, je dis quand même un avertissement, c'est 20e et 21e siècle. Mmh. Après, je vais chercher certaines racines chez Fourier, Saint-Simon, parce que bah d'abord c'est 19e, 20e et 21e, excusez-moi. Je vais chercher des racines au 19e siècle de certaines hypertrophies chez Comte, de certaines radicalités anti-sciences chez Fourier. Je remonte pas plus loin, c'est-à-dire que je me permettrai pas d'aller chercher chez Pascal. C'est des gens qui sont philosophes, mathématiciens, comme l'était Leibniz, avec dans des esprits profondément religieux à l'époque. Même des gens comme Cuvier qui sont beaucoup attaqués maintenant. Tu peux pas trop. Il était dans un esprit début du 19e siècle totalement religieux. Hein, c'est quand la science a commencé à s'émanciper. C'est vraiment le 19e siècle où la science s'émancipe de la religion. Et on peut, à ce moment-là, voir quelques apparitions de l'alter-science contre ces théories scientifiques structurantes que sont Einstein, Darwin, etc., qui sont des théories structurantes de cette émancipation, finalement, aussi. Hein, parce que la physique d'Einstein, elle nous a expliqué certaines origines de l'univers, aussi. Comme Darwin, la théorie de Darwin nous a expliqué certaines origines de l'homme. Et voilà, je comparerai pas avec... Non, là, je te suis pas, excuse-moi, sur Pascal, parce que je trouve que...
C'est l'exemple qui m'est venu à la fois bateau et à la fois ce qui m'intéressait, c'était est-ce qu'il y en a aussi, est-ce que c'est forcément une maladie de vieux, disons pour résumer, ou est-ce qu'il y en a aussi où ça peut cohabiter, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est pas parce qu'on est scientifique qu'on est
scientifique.
Voilà, c'est pas parce qu'on est scientifique qu'on est particulièrement rationnel, quoi, en fait, sur l'ensemble.
Ah non, oui, ça, bien sûr, oui, non, mais ça.
Et donc, a priori, ça peut cohabiter. Enfin, j'ai l'impression que.
Oui, mais enfin, quand tu inventes une alter théorie, tu consacres ta vie, quoi, finalement. Donc, bah, écoute, on peut citer des noms à l'heure actuelle. Regardez des gens comme, comme Jean-Pierre Petit, l'astrophysicien, si tu veux, il a. Complètement basculé.
Je voulais t'en parler justement.
J'ai pas étudié. Alors, je n'aime pas parler quand j'ai pas étudié, mais c'est ça me paraît un. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il continue à faire de l'astrophysique? Je suis pas sûr. Donc, quand quelque chose t'envahit comme ça, tu y consacres ta vie. Donc, peut y avoir un parallèle pendant un certain temps, et puis rapidement. Si tu bascules du côté de l'alter-science, tu y passes ta vie, quoi, je pense. Tu défends Mordicus, la vitupération aussi, c'est un critère.
Bah, surtout que ça prend du temps parce qu'on est seul contre tous.
Oui, c'est ça. Tu veux être seul contre tous.
Bien sûr.
Et tu vitupères, et voilà, quoi. Donc, voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais il me semble.
En gros, là.
Il y a une remarque très intéressante de Monsieur Nose, parce que moi c'est quelque chose que j'ai ressenti en lisant le bouquin. C'est le narcissisme, c'est pas ça le danger en fait de la science, et qui il dit le narcissisme serait-il le danger de la science. Et en fait, moi je me demande si c'est pas ça un peu qui crée l'alter-science, quoi.
Oui, un souci effréné de reconnaissance. Voilà, ça je développe là-dessus. C'est vraiment. Alors tu me diras, on a tous un souci de reconnaissance. Mais là, un souci effréné sur des. Et en ayant l'impression d'avoir raison seul contre tous, c'est deux choses qui me paraissent comment peux-tu être reconnu si tu as raison contre tous, même des gens comme Einstein n'étaient pas dans ce cas-là, je suis pas d'accord, Von Laue ou Planck qui soutenaient Einstein dès que la théorie est sortie, donc si tu veux
c'est ce mythe du génie incompris qui
je suis un Galilée, etc., tous ces gens se comparent à Galilée, quoi. Donc appelons ça narcissisme, moi j'appelle ça volonté effrénée de reconnaissance qui caractérise ces gens-là. C'est vrai que certains bons scientifiques sont comme ça, hein.
C'est pas forcément.
À la visite du CERN, tu te rappelles, Alan?
Oui, absolument.
On n'aura pas le nom.
Quelques prix Nobel imbuvables.
Voilà. Mais là, c'est volonté effrénée de reconnaissance sur un sujet qui présente et qui n'est pas valable, quoi. C'est ça qui est. Alors, narcissisme, appelons ça narcissisme. Mais je le caractérise un peu plus que ça, quoi.
Petit est un bon exemple de ce narcissisme. C'est quelqu'un qui faisaient de la science relativement normale, publiées, etc., et qui, bon, ces théories ont plus ou moins été écartées par les processus normaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir d'un moment, un arnaqueur, un bonimenteur a commencé à envoyer des lettres censément envoyées par des extraterrestres, et Jean-Pierre Petit a fait partie des destinataires. Et bien évidemment, les lettres expliquaient que c'était lui qui avait raison, que les théories qu'il développait étaient les meilleurs et le meilleur.
Ah, je connaissais pas, c'est un argument gödelien, ça, c'est-à-dire qu'il se faisait envoyer des lettres qu'il écrivait sans doute, parce qu'il croit aux extraterrestres. En
plus, on ne sait pas vraiment si c'était lui qui les écrivait ou si c'est quelqu'un d'autre qui a joué sur la vanité, sur sa vanité. Je pense pas que c'était complètement élucidé, mais dans tous les cas, enfin, c'est un très bon exemple de vanité qui emmène des gens très loin de la science.
Et quand tu dis qu'il emmène des gens, c'est pas seulement lui. C'est-à-dire que quelqu'un comme ça va se créer une audience sur Internet, c'est une espèce de réseau alter-scientifique qui se forme aussi. C'est ça qui est intéressant d'étudier, de voir quelle audience ça a aussi. Hein, donc.
Bon, par contre, pour rapidement une citation de la chatroom, un dont tu parles, c'est Camille Flammarion, qui lui a aussi sympathiquement basculé parfois dans l'alter-science.
Alors attends, je suis pas sûr. J'ai dû mentionner Camille Flammarion comme opposé à la relativité, vraiment à la toute fin de sa vie dans les années 20. Mais enfin bon, je vais pas étudier plus que ça Camille Flammarion.
Bah, tu en parles un peu, oui, et il me semble, mais pas plus que ça, mais un peu quand même.
Non,
il me semblait l'avoir vu. C'était plus d'une fois alors.
Oui, c'était une fois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il
dit? Il dit, il pouvait parfois prêter l'oreille à l'alter-science, allant parfois même jusqu'à aider certains à se trouver au devant du public. Enfin, il donnait une aura un peu, mais il me semblait que t'en parlais un peu. J'ai peut-être confondu.
Flammarion, il croyait en la parapsychologie aussi. Hein, donc,
c'est ça.
Ouais, il y avait des grands savants qui croyaient à ça à l'époque. Charles Richet, prix Nobel de médecine, il croyait à la parapsychologie aussi. Hein. Camille Flammarion, il pose un sujet un peu particulier. C'est grands vulgarisateurs de la science. Auguste Comte, c'était pareil. Auguste Comte, auquel je consacre un chapitre, il a certaines qualités. Auguste Comte, c'est un très bon vulgarisateur de la science, mais il se coupait de la science du coup. Il en venait à se couper de la science, il s'opposait à toutes les théories de son époque, et cette problématique de voir comment ces grands vulgarisateurs en arrivaient à se couper, la relativité pour Flammarion, c'est inconcevable pour lui, c'est un truc dans l'astronomie populaire, tu pourrais pas avoir un chapitre de relativité, c'est inconcevable pour lui, ça rentre pas dans son cadre. Mm-hmm. Or c'est un très bon vulgarisateur quoi, dans son époque, et encore maintenant ça se lit tout à fait correctement. Donc comment peux-tu être vulgarisateur en restant un pied dans la science? C'est un sujet intéressant, ça. Oui, oui.
Alors ça fera l'objet d'un autre débat probablement. Je pense qu'il y aurait vraiment de quoi en faire une émission, effectivement. Rapidement encore pour finir avec les commentaires qu'on a eu dans la chatroom. Un commentaire de Georges McKee qui nous rappelle que Luc Montagnier est un bon exemple des malheurs de la vieillesse. Et qui demande si la fusion froide, c'est de l'alter-science.
Oui, c'est-à-dire que la fusion froide, ça fait référence à aussi l'énergie libre de Vallée. C'est les mêmes qui travaillent sur qui font des ce qu'on appelle la small science, hein, par rapport à la big science du LHC. On est capable de faire de la small science, à vous faire de l'énergie à partir d'une petite bouteille d'hydrogène en fusion froide, quoi, et à basse température. Donc moi je mettrais ça dans l'alter-science, c'était totalement invalidé. Alors il est vrai qu'il y a des gens qui continuent à se réunir sur la fusion froide, des colloques une fois tous les deux ans sur le sujet. Mm-hmm. Tu peux pas éviter que 99% des scientifiques pensent quelque chose et que 1% continue à penser autre chose. Mais
c'est limite ça en fait, parce que ça permet aussi éventuellement de faire naître les nouvelles choses.
Ouais. Donc, David nous précise encore qu'avec la fusion froide, il y a beaucoup d'autodidactes.
Ouais, ah oui, 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 puisque bah, c'est ça, un truc que tu peux faire chez toi avec avec benzène.
Et là, après, on aurait plein d'exemples. Hein. Il y a les histoires de moteurs magnétiques ou des choses comme ça. Enfin, où il y a plein de choses. On pourrait en citer plein des. Tu en parles même, je crois, un tout petit peu des bidouilleurs qui font des théories. Quoi.
Oui, oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, il va rendre visite à un laboratoire qui n'a de laboratoire que le nom, qui fait de l'énergie libre et de la fusion froide. Quoi. Et c'est la façon dont ces gens ont accès aux politiques aussi, au plus haut niveau, qui m'étonne toujours. Ça, c'est un truc qui arrive, et ces gens qui ont le bras long et qui... Puis il y a une forte inculture des politiques sur qu'est-ce que c'est que la science exactement aussi, qu'est-ce que c'est que les résultats de la science, quel est l'état de la science à l'heure actuelle, et que c'est pas parce que tu mets deux bouteilles d'hydrogène dans un truc qui s'appelle un labo que ça va révolutionner l'approvisionnement énergétique mondial, quoi. Donc même a priori plutôt pas, quoi, même. Donc, et pourtant ils reçoivent des sommités, quoi. Donc ouais. c'est
Ok, rapidement une toute dernière question de David. Essaye d'être court sur la question, David, et puis Alexandre peut-être court sur la réponse aussi. Si
ouais. En quelques mots et très rapidement, il y a peut-être même pas forcément de réponse. Tu disais que tu étais en dialogue avec donc ces alters scientifiques, parfois avec des créationnistes. Tu t'y prends comment ? Il y a une méthode
En dialogue, écoute, c'est beaucoup dire, David, parce que oui,
en tout cas, en interaction, quoi.
Oui. Bah, j'essaye de comprendre de l'intérieur aussi. Enfin, je ne suis pas sociologue, hein, oula. Donc, je suis pas sûr que je prolongerai ça. Mais c'est toujours intéressant d'aller dans des conférences, hein, parce que il y a un autre discours, tu peux entendre un autre discours. Bon, moi, je crois beaucoup aux écrits, donc surtout avec
Internet. Il y a un effet de foule,
Oui. Et puis tu vois comment les gens, tu vois quelle audience ça draine aussi, hein, quel type d'audience ça draine. Hein, donc, moi, quand je vois des gens là de la rouge cheminade qui sont aux sorties de métro, voilà, tiens, je cite un exemple, là, sur un monde d'air, enfin, voilà, je serais bref. Il faisait froid là au mois de février dernier, là. Et ils arpentaient le boulevard Saint-Michel en disant « Ah, ma bonne dame », les passants, en leur disant « Ah, ma bonne dame, il fait froid, hein, vous voyez, le réchauffement climatique, c'est vraiment n'importe quoi, hein, d'ailleurs, vous voulez pas lire mon truc ». Voilà, donc c'est du prosélytisme, quoi. Donc ça mérite d'être étudié, quoi, parce que ça nous éclaire sur certains courants contemporains.
Ben ça, c'est un peu une conclusion... Voilà, je trouve que c'est un sujet en effet très intéressant qui nous éclaire sur ce qu'est la science, sur ce qu'est les courants contemporains, etc. Moi, je trouve que ça fait un parallèle. On avait vu à l'époque des Ig Nobel comment on pouvait faire de la science avec des sujets moins sérieux. Là, on voit comment, en se prenant au sérieux, on ne fait pas forcément de la science. Donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est un bouquin qui vaut le coup d'être lu. Moi, si je peux juste donner un conseil aux auditeurs qui voudraient le lire, c'est pas de le commencer par le début. les premiers chapitres sont les plus compliqués à lire, mais après il y a beaucoup d'exemples, donc ça permet de picorer éventuellement des exemples, voire même de passer un exemple si ça nous parle pas, etc. Les chapitres de la fin sont plus faciles à lire et synthétisent un peu ce qui a été dit, et puis on peut finir sur l'analyse du début qui est intéressante, mais avec la vision. Alors c'est ce côté des ordres, je sais pas si tu seras d'accord, mais moi je l'ai un peu perçu comme ça, où le début est très abrupt parce qu'on n'a pas eu tout le bouquin derrière pour le recevoir, quoi.
C'est-à-dire, c'est comme c'est pas forcément des personnages connus que j'ai étudiés, à part certains qu'on a cités.
Mais voilà. Mais après, donc, il y a plein d'exemples. C'est extrêmement documenté. Il y a beaucoup de choses. C'est très intéressant à lire. Et pour ceux qui trouveraient que c'est gros, il y a vraiment moyen de lire un chapitre ou deux pour avoir des idées déjà en parallèle. C'est assez bien classé pour le coup. Merci beaucoup, Alexandre, en tout cas.
Bah, merci, Nicolas.
Et c'est très intéressant. Juste avant qu'on enchaîne avec les rubriques de l'émission, est-ce que tu souhaites nous dire deux mots sur d'autres projets ?
Bah écoute, oui, bah j'ai ouvert un blog à la demande pour la science, là. Je continue mon blog Café des Sciences de vulgarisation, et puis j'ai ouvert un blog Alter Science sur la plateforme Silog. Et je pense continuer un petit peu à étudier les là pour l'instant j'ai plutôt axé les choses sur, donc je fais pas mal de conférences sur le sujet, et puis de la science dans les radicalités contemporaines, quoi. Enfin, je pense que c'est un quelque chose d'intéressant, mais sans se couper de toute cette source
documentaire. Dans la suite directe de la fin du bouquin, du coup, quoi. Vraiment,
un petit peu, mais aussi le créationnisme aussi. Je pense qu'il faut aussi étudier ça, quoi. Donc,
bon, on peut quand même préciser que t'es aussi le concepteur et le directeur de la publication de deux sites internet. Important, tu veux peut-être nous en
dire un mot. Alors j'étais concepteur, je suis plus directeur de la publication de science.gouv.fr, hein, qui est cette CNDP, la Centre nationale de documentation pédagogique, qui s'en occupe très bien là. Donc ça a été créé en 2004. Et puis je suis directeur de la publication, éditeur en chef de bibnul.education.fr. Je suis seul avec un webmestre, bibnul.education.fr, qui est une bibliothèque numérique d'histoire des sciences où on prend des textes scientifiques, tout ce qu'il y a de plus scientifique, analysés par des scientifiques contemporains qui remettent en perspective par rapport à la connaissance scientifique actuelle. Et donc en fait le cinquième anniversaire du site qu'on a ouvert avec 10 textes il y a 5 ans et il y en a 120 maintenant, c'est-à-dire on a fait 2 textes par mois en gros.
Félicitations. Juste qu'on comprenne bien le principe, donc ce sont des textes d'anciens textes de référence. Oui, scientifique, c'est ça,
on parlait tout à l'heure de Blaise Pascal. Bon, bah, sur son texte sur la pascaline, hein, la machine à calculer, commenté par un scientifique contemporain, collectionneur de machines à calculer d'ailleurs, qui explique comment elle fonctionne, comment elle marche, qui explique aussi que le principe d'incrémentation, qui est le premier à avoir lieu dans la pascaline, t'as un barillet qui en fait tourner un autre pour les dizaines, quand il arrive à 9, il en fait tourner un autre, et ben c'est un truc qui a été longtemps en utilisation dans nos compteurs kilométriques de voitures. Bon, maintenant c'est électronique, mais encore il y a peu de temps c'était des à barillet comme ça, donc
dans les flippers aussi.
Donc pour citer un autre exemple, les phares de Fresnel, l'optique de Fresnel, les phares à lentilles, ça a été aussi dans les phares de voitures. Donc on explique comme ça, on prend un texte d'un scientifique, genre Fresnel, genre Pascal, genre Poincaré, genre, mais pas que des Français, genre Darwin, et on explique quelle influence il a eu sur ce texte-là, hein. Vraiment, on essaye de partir d'un texte en le citant beaucoup et en montrant quelle influence ça a sur la connaissance scientifique contemporaine, quoi. C'est mieux faire le lien avec une histoire des sciences mise en perspective par rapport à la culture scientifique contemporaine.
Ouais, super intéressant. Autrement, rapidement, t'es également actif au sein de la Fondation Wikimédia France, c'est juste, donc la fondation qui édite Wikipédia.
Oui, tout à fait. Alors, attention, on n'édite pas Wikipédia.
Ah ouais, enfin non, d'accord.
La fondation
d'accord.
qui a créé le concept Wikipédia.
Voilà, la fondation derrière.
C'est beaucoup du décret des hébergeurs, mais voilà, moi j'ai été contributeur Wikipédia à partir de 2005. D'ailleurs, au début, j'ai pas bien réussi, tiens. Il y avait des trucs anti-relativité complètement stupides, hein, la fiche relativité. Au début, je me suis heurté à des, je sais pas à qui d'ailleurs. Et ça, c'était fin 2005, mes premières contributions. Puis 3 mois plus tard, j'y suis retourné, et elles sont passées, mes modifications. Donc, je sais pas, le gain n'était plus. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à beaucoup, beaucoup contribuer à Wikipédia, au point d'être membre de leur association, la Wikimédia France. Il existe une Wikimédia Suisse aussi, hein. Être administrateur de cette association, et puis moi je travaille sur le numérique par ailleurs, donc je défends des sujets comme l'iconographie un peu plus libre, rendre un peu plus libre l'iconographie publique, tu vois, les images du CNES, c'est pas normal qu'on ait que des images de la NASA, il devrait y avoir des images du CNES. Ben voilà, donc je milite pour un certain nombre de choses au sein de l'association Wikimédia France.
Et en parlant de se heurter à des choses sur Wikipédia, faudrait que tu fasses passer un mot pour nous, qu'ils autorisent la création de pages pour les podcasts.
C'est-à-dire
parce que pour l'instant, Wikipédia France, c'est interdit pour un podcast de créer une page juste parce que c'est un podcast.
Alors, sauf si on l'a créé sur la version anglophone de Wikipédia et qu'on l'a traduit. Dans ce cas, c'est accepté. Ouais. Enfin, c'est bizarre.
Ou alors, si on a deux bouquins qui parlent de nous en sujet principal, c'est ça?
Voilà. Bon, on peut aussi demander à Alexandre d'écrire 2 bouquins sur Podcast Science.
Hein. Voilà.
Alors, je pense que les podcasts science aura acquiert petit à petit de la notoriété. Je pense qu'il y aura une fiche Wikipédia.
Ouais. Oui, ça devrait arriver, mais pour l'instant, on se les fait refuser.
Ouais, moi, j'ai eu un échange avec avec les Cerbères qui gardent Wikipédia France. La politique est pas du tout la même que pour la version anglo-saxonne. D'ailleurs, je m'interroge sur le côté universel de Wikipédia avec ce genre de politique. Je sais pas si c'est possible, quoi.
Ouais, écoute, là, ça nous rentrera dans...
Ouais,
t'as raison, il y a des politiques différentes, c'est aussi ce qui fait le charme du truc, bon, voilà, et puis on peut, heureusement, Podcast Science peut vivre sans Wikipédia
oui,
aussi.
Oui, c'est ça, donc, bien sûr. Ah,
absolument.
on va peut-être enchaîner, pour te retrouver sur le web ou ailleurs, pour te contacter, donc il y a ton site internet, moati.net, ouais. Avec deux T, moati.net. Mathéphysique.net, donc avec un tiret entre les mots.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Donc, indispensable. Bibnome dont on a parlé, et puis ton Twitter, Alexandre Moiti, tout accroché.
Voilà, c'est ça.
Autre endroit où...
Non, bah, écoute, tu as tout dit. Moiti.net, c'est mon truc académique avec toute la liste de mes articles, hein, ceux qui veulent vraiment plonger dans des articles. Et puis, le blog Silog que je viens de dire, Alter Science.
Oui, et puis Silog, ouais. Donc.
Mathéphysique.net, c'est avec des tirets, ou indispensable.net, hein, donc c'est plus simple.
Et puis, donc, le livre Alter Science. Voilà. Chez Odile Jacob.
Parfait. Merci encore, Alexandre.
Merci à tous.
C'était super instructif. Et puis, tu restes avec nous. Enfin, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est toi qui héberge Nico Tup là ce soir. tu restes avec nous pour le reste de l'émission et puis tu interviens quand tu veux.
Ouais.
On va passer au One Minute Pitch. Robin ?
Pas d'émission la semaine prochaine. Ce sera l'Université d'automne de Podcast Science. On va se réunir à la montagne tous les quatre et réfléchir au grand air à comment on voit la suite. Si vous êtes sage, seulement si vous êtes sage, on essaiera de vous envoyer une carte postale.
Ouais, on enverra Robin à la poste acheter un timbre et toutes ces sortes de choses. Et puis sinon, on se retrouvera dans la chatroom le jeudi 17 octobre prochain à 20h30 pour recevoir Ruxandra Stoicescu dans un crossover avec son podcast Tales of the World. Elle analyse les relations internationales. Alors, on parlera du rôle des sciences dans les décisions politiques, de sciences dures et de sciences molles, des dérives scientistes dans l'utilisation des statistiques comme argument ultime. Enfin bref, on va parler un petit peu de tout et de rien. On sait qu'il y aura plein de choses à dire. On va parler maintenant du quiz du mois. Alors, avant de nous attaquer au noyau d'avocat, un petit retour sur le quiz précédent, surtout sur notre petit délire après la réponse officielle lorsqu'on parlait de l'utilisation des téléphones dans les avions. Alors c'est un message de Pierre Kerner qu'on a reçu aujourd'hui par Twitter qui nous signale un article de Boing Boing, indiquant que les compagnies américaines assouplissent complètement leur politique quant à l'utilisation d'appareils électroniques à bord des avions durant le décollage et l'atterrissage. On laisse enfin tomber le principe de précaution basé sur des peurs infondées pour prendre une décision rationnelle basée sur les données scientifiques. Alors on peut que s'en réjouir évidemment. Il faut noter qu'il sera quand même toujours interdit de téléphoner à proprement parler, d'enclencher le Wi-Fi sur ses appareils et d'utiliser la 3G. Mais enfin bon, au moins on vous embêtera plus avec vos liseuses et autres iPods. Et ça, c'est déjà un progrès. Puis selon un autre article que quelqu'un d'autre avait partagé, toutes mes excuses parce que je l'ai pas mis de côté tout de suite et puis après il s'est un peu noyé dans la masse, mais j'avais lu en vitesse l'article, il semblerait que les réglementations européennes devraient suivre rapidement. Donc, bonne nouvelle.
Et... Parlons maintenant du quiz en cours. Pour rappel, laisser le noyau de l'avocat dans le guacamole l'empêche-t-il de s'oxyder ? Info, intox ?
Alors, je voulais demander son avis à Alexandre sur la question, mais s'il a disparu, c'est pas grave.
Non, il est de retour. Il est de retour, il fait une tête.
Ah oui, alors là, c'est...
C'est une vraie question. Et donc, la question que tu n'as pas entendue, dont on faisait référence avant le truc dans l'avion, c'est qu'on s'était demandé si c'était dangereux de téléphoner dans une station-service. Et donc là, la nouvelle question, c'est est-ce que mettre un noyau dans le guacamole, ça l'empêche de s'oxyder, comme dit certaines recettes de grand-mère?
Ah ouais, bah écoute, on va essayer de faire un bouquin là-dessus, avec toutes ces questions-là.
Alors c'est pas la peine, hein, parce qu'on finira quand même par donner la réponse officielle.
Ouais, bon, d'accord. Ouais.
Chers auditeurs, est-ce que vous vous souvenez de la réponse cryptée de Justin? Eh bien, nos auditeurs l'ont décodée. Alors d'abord, c'est Kevin Moulard, le premier, qui nous a répondu via un commentaire sur le site.
Il nous dit donc le contenu du message. « Bravo, vous avez réussi à déchiffrer le message. Le chiffrement utilisé était bien celui de...
Wigner,
un diplomate français, inventeur supposé de cet algorithme. Ce mécanisme est bien plus qu'un simple décalage, puisqu'une lettre peut être encodée de plusieurs façons différentes avec la même clé. Pour en revenir à la question principale, je dirais info. En effet, je suis tombé par hasard sur la page Wikipédia de la vitamine E. Elle est connue pour
ses propriétés antioxydantes et notamment utilisé comme conservateur alimentaire, les fameux E306 et E309, voilà, qu'on trouve dans les composés des aliments. Comme on trouve cette vitamine E en grand nombre dans les huiles végétales, je suppose qu'elle doit être présente dans le noyau de l'avocat. Bravo pour votre émission et continuez comme ça.
Alors, chose promise, chose due, David lui offre donc un t-shirt Podcast Science.
Que je vais peut-être envoyer ce soir.
Ah bah oui, il faut l'envoyer quand même. T'as son adresse, sa taille, tout ça?
Oui. Ah, sa taille, je sais pas, faut que je vérifie.
Bon, Kevin est dans la chatroom, alors si tu peux nous donner ta taille. On a eu une réponse également décodée par Blast, quelques minutes plus tard, qui lui en plus nous a livré son algorithme, donc il a écrit un algorithme pour le décoder. C'était pas prévu au programme, mais ça mérite amplement évidemment un deuxième t-shirt que je me chargerai d'expédier. Alors Blast, je crois qu'il nous a envoyé son adresse juste avant l'émission, j'ai pas relevé les mails, si jamais ta taille aussi ce serait parfait. Et puis on a reçu hier après-midi par email une troisième réponse également décodée par Rieux cette fois. Mais bon, ben là, il n'y a plus de t-shirt. Hein. Désolé, Rieux, ce sera pour une prochaine fois. Merci quand même d'avoir participé. Quiz toujours, on a une réponse de Xavier Durussel qui nous dit...
On s'en fout, c'est joli.
Voilà, il y avait aussi des hashtags parce qu'il nous a répondu par Twitter, mais je vois que tu les as ignorés soigneusement. On reprendra ta formation à Twitter à la fin, d'ici la fin de l'émission. On a Slash également qui a répondu...
qui nous donne une réponse très concise que j'aime beaucoup et qui est sourcée en plus. Pour le quiz du mois, intox, le jus de citron, oui. Le noyau d'avocat, non. C'est ma grand-mère qui l'a dit.
Alors si c'est la grand-mère de Slash qui l'a dit, évidemment, c'est une source d'autorité. Continue, on a eu une autre réponse d'Alnitam.
Je ne me suis pas trop senti concerné par ce dossier.
Donc il a répondu sur la page du dossier Hacker PhD, le fameux épisode sur l'open science.
J'avoue ne pas avoir été très attentif. Je me lance donc dans la réponse au quiz. Plonger un noyau d'avocat dans le guacamole l'empêche de s'oxyder. Intox. Le noyau ne s'oxyde pas, il sèche tout au plus. Je lèse Podcast Science et c'est ma joie.
Eh ben, c'est la soirée des premières, un crime de lèse Podcast Science. Il fallait que ça nous arrive un jour. Alors bon, pour préciser quand même, c'est pas du noyau dont on a peur qu'il s'oxyde, mais bien le guacamole à proprement parler. Enfin, de toute façon, on n'a pas préparé la réponse, donc on l'a même pas cherché. Vous avez encore l'occasion de participer. Je pense qu'on donnera la réponse dans le prochain épisode, le 17 octobre. Autrement, on a eu d'autres messages d'auditeurs qui concernaient pas forcément le quiz. On a eu un message, ou plutôt une réflexion de Seb, qu'on a reçu il y a quelques temps déjà. On va profiter de la présence d'Alexandre, peut-être pour essayer de lui apporter une réponse intelligente.
Bonjour à toute l'équipe. J'écoute depuis un moment votre podcast et il prend beaucoup de plaisir. J'aime votre esprit scientifique, souvent plus que certains de mes collègues qui, eux, font de la recherche. Au passage, je travaille dans le monde de la biologie, la protéomique, pour être précis, ou plus flou, je sais pas, j'imagine que ça concerne les protéines. Une question me turlubine depuis un moment sur les sources. Nous sommes d'accord, il faut toujours citer ces sources. Mais comment savoir si elles sont fiables? Un livre écrit par un spécialiste est-il plus fiable que celui écrit par un passionné? Est-ce que les journaux à comité de lecture sont vraiment fiables? Le plus souvent, on se base sur une confiance que l'on prête à certaines personnes, mais les résultats peuvent être adaptés pour souligner l'interprétation que l'on donne. Bien sûr, les résultats doivent être recoupés et confirmé par d'autres études, mais cela prend du temps. Ce temps peut être utilisé pour répandre de fausses conclusions. Je pense entre autres au cas de l'étude Seralini. Du coup, il faut citer plusieurs sources pour un même point, ce que l'on voit rarement. Ne prenez pas, je ne rejette pas la science telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. J'ai le sentiment que les scientifiques en général ont un regard critique sur les publications, bien que souvent un peu biaisé. Ce qui m'inquiète, c'est cette tendance de vulgarisateur, mon texte bouge en même temps que je le lis, c'est cette tendance de beaucoup de vulgarisateurs à se contenter d'un nombre restreint de sources et que les lecteurs auditeurs se contentent d'une source pour considérer une hypothèse comme avérée. Bref, quel est votre point de vue sur tout ça? Merci encore pour la qualité de vos émissions qui alimentent mon cerveau avide de compréhension. Seb.
Il y a beaucoup de questions hein, dans cette intervention. Bon, quelques-unes de ces questions, on les avait un petit peu abordées dans l'épisode 144 sur l'Open Science avec l'équipe de Hacker PhD. Alexandre, est-ce que tu aurais des éléments de réponse déjà sur peut-être les premières questions? Comment savoir si des sources sont fiables?
Ah, bah écoute, là, il y a une série de questions très foisonnantes. Sur la vulgarisation, ça reprend un peu ce qu'on a dit sur Flammarion, Comte, etc., etc. Bon, moi, je pense que c'est pas forcément un défaut pour un vulgarisateur de s'appuyer sur un nombre restreint de sources du moment qu'il fait que ces sources sont fiables et qu'il fait un bon boulot de vulgarisation. Alors, et quelles sont les sources fiables? Bah souvent, on fait du boulot de vulgarisation à partir de manuels universitaires, donc qui sont normalement des sources fiables, quoi. Donc, je ne sais pas à quoi Seb faisait allusion exactement, dans quelle démarche il était exactement, mais dans une démarche de vulgarisation, les sources fiables, t'as les manuels universitaires, et tu peux faire de la vulgarisation à partir de
ça. Il demande si les journaux à comité de lecture, par exemple, sont vraiment fiables.
Ah bah ça, moi, dans les trucs d'Alter Science, tu trouveras des journaux. Ils miment le fonctionnement de la science, donc tu trouveras des journaux. Aux États-Unis, tu as des journaux qui sont connus comme étant créationnistes. Hein, donc,
Et qui sont pourtant à comité de
oui,
lecture.
bien sûr, mais ouais, oui, ils miment tout. Hein,
Ah, être à comité de lecture, ça veut juste dire qu'il y a des gens qui relisent des
oui,
articles.
voilà, c'est
Un
ça.
podcast science, c'est à comité de lecture. Hein, donc.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc,
Ouais, sauf que quand on dit des bêtises, ça passe pas. C'est automatiquement corrigé.
je crois qu'il faut exercer son propre discernement, quoi, c'est facile. Je pense que voilà, chacun exerce son propre discernement par rapport à ses sources. Je pense que c'est une qualité que tout le monde a. Enfin, je suis assez optimiste, moi, mais bon, j'ai tendance à faire confiance en l'individu.
Ouais. Bon, moi, dans mon opinion, c'est citer une source, ça suffit pas. Pour faire de la, bon, j'aime pas le mot de vulgarisation, mais disons de la communication, de la médiation scientifique. Nous, on se refuse, par exemple, sur Podcast Science, après avoir fait quelques bêtises au début, c'était nos erreurs de jeunesse, à diffuser des news scientifiques à peine sorties. Je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps au temps, il faut laisser le temps aux études d'être validées par
Oui.
d'autres études.
Ben ça, je te rejoins tout à fait, Alan. Par exemple, sur science.gouv, on s'est vite aperçu aussi, tu vois, pourtant, faut de l'apprentissage aussi, que beaucoup de communiqués de presse des organismes, c'est pour prendre position sur un sujet scientifique, pour prendre position mondialement. Donc, faut pas mal. Quand tu parles au grand public, faut pas mal. Même au public intéressé, même au public éclairé, il faut quand même faire la part des choses et décrypter ça, quoi. Comme tu as raison tout à fait de dire qu'il faut laisser reposer quelque chose pendant quelque temps, par exemple. Oui, ça
Mais ce
c'est.
qui est marrant, c'est que quand on regarde au Café des Sciences, il y a peu de blogs qui font du hard news, hein. Il y a très rarement des news vraiment d'actualité. C'est des choses qui sont un peu plus vieilles et c'est ce que tu dis, quoi. Ça laisse vivre.
Ouais, bah je suppose que de faire de l'actualité, ça suppose quand même d'avoir des moyens qu'on n'a pas nécessairement dans la blogosphère. Pouvoir vérifier ses sources à chaud, comme ça demande de faire pas mal
Ouais, mais même,
d'investigations.
enfin, j'ai pris le Café des Sciences, mais quand tu lis pour la science, fait très rarement une couverture sur une actu hyper chaude, hein. Ils ont fait le boson de Higgs, quoi, mais bon, après, ils font des thématiques, mais ils font pas de l'actu, ils font pas du hard news, hein, t'as pas.
Si tu commences à vouloir faire de la, en plus, le problème, c'est que tu vas avoir besoin d'actualité à chaque numéro si tu fais un truc régulier. Et il n'y a pas de nouveauté à chaque numéro, donc ça fausse aussi le truc, quoi. Ça oblige à en créer, quoi. Je trouve.
Oui, c'est vrai, c'est un autre rythme aussi de production, bien sûr. Ok. On enchaîne avec les autres messages reçus cette semaine. On a reçu un message audio de Belgique d'abord. Je vous le fais écouter.
Bonjour, Bernard Defer, je suis médecin radiologue, j'ai 67 ans. J'écoute vos émissions, je pense, depuis le début. Je trouve que vous vous êtes fortement amélioré, non pas en qualité scientifique, mais en qualité radiophonique. Je me rappelle des premiers épisodes qui étaient très longs, où vous étiez en train de réfléchir pendant longtemps. Mais bon, c'est magnifique de s'améliorer. Je vous laisse ce petit mot pour vous donner la réponse à la question que je vous ai posée par email. Je vous demandais que ce qu'il y avait d'extraordinaire dans le premier voyage des Américains sur la Lune, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce voyage a été transféré en télévision, en direct. On a vu je crois que c'était Busaldrin, descendre les escaliers du LEM et mettre les pieds sur la Lune et tout ça en direct. Je me rappelle, j'étais étudiant en médecine à l'époque, on était juste après le blocus, on s'est levé à 3h du matin pour voir, ou à 2h du matin, on a attendu je ne sais combien de temps avant de voir les images, pour voir cette chose absolument extraordinaire, qui finalement est passée plus ou moins inaperçue dans les choses extraordinaires de la science. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.
Un tout grand merci à Bernard. On aime bien les messages audio, même si la leçon était un petit peu bizarre, on aurait dit qu'il venait d'une autre époque. Puis alors, j'ai appris quelque chose.
De la Lune.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, les premiers pas de l'homme sur la Lune, ça a été diffusé à la télé, c'est vrai que c'était une grande première, mais tout le monde s'en foutait, alors ça, j'avoue que je tombe des nues. Je pensais que c'était un événement.
Pas trop cet avis. Moi, je l'ai connu. J'avais 9 ans. Alors, c'était dans un café sur la côte basque. Et il y avait beaucoup de monde dans ce café. Hein.
Je pense, je pense pas qu'il dit que tout le monde s'en foutait. Je pense qu'il dit que aujourd'hui, on. C'est pas ce dont on parle le plus. Quoi. Ouais.
Ah, d'accord.
Et moi, ça m'étonne pas plus que ça, parce qu'en fait, ça paraît normal maintenant.
Mmh. Oui, ça. L'aspect extraordinaire, c'était de marcher sur la Lune, mais pas de se dire qu'en plus, on retransmettait quoi.
Mmh. Ok, bon, j'ai pas compris. Mais donc toi, Alexandre, tu l'as vécu ce moment.
Ah oui, ça fait partie des moments dont on se rappelle où est-ce qu'on était exactement quand on l'a vu. Et ça, je l'avais vu. J'étais petit. On m'avait autorisé à le coucher tard, etc. Enfin, donc c'était. Oui. Et puis il y avait plein de monde autour de moi dans ce café où on regardait la télé.
Excellent. On a un autre commentaire d'auditeur qui concerne l'épisode 144 sur Hacker PhD.
Excellent. Émission. Cela m'a permis de découvrir d'autres aspects de la science citoyenne que celle habituellement dans les médias français. Alors, il y a une adresse.
Ouais, je suis pas sûr. Je me demande si l'adresse va te plaire. C'est sciencecitoyenne.org.
Ouais.
C'était pas gentil. Oui, c'est
Non, mais sur la science citoyenne, ça mériterait un vrai débat parce que tu as la science participative. Qu'est-ce que c'est que la science citoyenne? Moi, j'écris un article en ce moment là-dessus. Jusqu'où les partis politiques dans Votons pour la science, là, qui était un blog du Café des Sciences, qui disait qu'il fallait inscrire la science citoyenne dans la Constitution. Enfin, je trouve que ça va un peu loin, quoi. C'est-à-dire les citoyens ont le choix de la science. Tu mets ça dans la Constitution. Je trouve toujours excessif quand on va jusqu'à des choses pareilles. Donc ça se discute, cette notion de science citoyenne. Hein. Ça dépend comment elle est appliquée, en fait. Hein. Donc tout est question de pratique.
Pour finir. Donc le commentaire, j'ai oublié de dire, c'est Guillaume de la Mairie. Il dit donc c'est très différent de la façon de présenter habituellement dans les médias français, très différente dans les sciences citoyennes, qui est très différente dans son fonctionnement, très politisée, très suspicieuse, voire anti-science. Ici, on parle de science, pas de politique, ni d'idéologie.
Mais comme le dit Alexandre, je pense qu'il y a de quoi faire un vrai débat là-dessus. Il faudra qu'on y revienne. Alexandre, on te réinvitera. C'est si on ne te fait pas peur avec la durée de nos émissions. Sur la même émission, un complément d'info de la part d'Enro, alias Antoine Blanchard, notre bien-aimé président du Café des Sciences, qui nous dit...
Bonjour et merci pour cette super émission. Je me permets d'ajouter quelques compléments d'information par rapport à ce que j'ai entendu. Alors déjà, l'article de Deuxième Labo sur Run My Code et la recherche reproductible est une tribune publiée sur Le Monde, cahier Sciences et Médecine, ce qui n'est pas une mince fierté quand on essaie de diffuser ces notions le plus largement possible. Je vous renvoie à la version publiée sur notre blog qui est bien plus vivante au niveau des commentaires, donc il donne le lien, on le mettra sur le site de l'émission. Mon article sur les sciences citoyennes par Citi participative éco est disponible à une adresse sur EnroWeb qu'il nous donne aussi, et chez votre libraire dans l'anthologie Les meilleurs blogs de science en France, c'est Sélection 2013, où Podcastian est aussi, je crois. Non, c'est pas celui-là.
Oui, oui.
Ouais. Le projet Polymath, dit-il aussi, n'a pas qu'une seule démonstration avec son actif. Sur les 8 problèmes soumis à ce jour, 5 ont été résolus. Et pour le dernier, c'était il y a seulement une semaine. Il nous donne quelques liens qu'on mettra sur le site de l'émission.
Là, c'est mea culpa. J'étais persuadé qu'ils en avaient résolu qu'un, en fait. Mais je sais pas si tu connais Polymath.
Alexandre?
Non, c'est bien.
C'est un peu un Wikipédia des maths. C'est des plusieurs mathématiciens qui résolvent ensemble un problème mathématique en avançant étape par étape sur une, où ils peuvent revenir en arrière. Enfin, c'est des maths collaboratives.
D'accord.
C'est pour ça que 5 résultats, déjà, c'est assez étonnant parce que du coup, il y a un nombre d'auteurs délirant par rapport à un travail de maths normal.
Mm-hmm. Ok. Sinon, on a reçu un message Word d'Alma Mocha de nouveau. C'est toujours nos petits moments de bonheur, mais on est un petit peu en retard. Du coup, je vous propose qu'on le
lise la prochaine fois. Cette fois-ci.
La prochaine fois, peut-être.
Absolument.
Il faudra qu'on lui demande si elle accepte qu'on les mette sur les notes de l'émission, quoi. Parce que je pense que nos auditeurs vont commencer à être curieux.
De voir ces messages qu'on reçoit par Word, c'est vrai. Ben voilà, on lui pose la question, Alma Mocha, est-ce qu'on peut diffuser.
Et voire même par respect, ces notes d'émission devraient être au format Word.
J'irai peut-être pas jusque-là. Bon, autrement, on a une question de Philippe Lagarigue.
Qui nous dit « Dans quelques milliards d'années, la galaxie d'Andromède et la Voie lactée sont censées rentrer en collision. Comment peut-on expliquer ça étant donné que l'univers est en expansion ? Je n'ai pas encore écouté tous vos podcasts, seulement les 20 premiers, les 5 ou 6 derniers, il se peut donc que vous en ayez déjà parlé. Sinon, ce serait peut-être un sujet intéressant. Pourquoi je kiffe la science ? Entre autres parce que j'aime bien vous écouter. Continuez, c'est super !»
Alors ça c'est une raison qui me fait plaisir de kiffer la science. Bon, moi j'ai pas trop eu le temps de préparer une réponse, mais du coup j'en ai trouvé une toute faite en vidéo sur le site du Scientific American.
My name is Caleb Scharf and I'm director of astrobiology at Columbia University and I'm here today to answer your questions.
Donc c'est une vidéo de Caleb Scharf, directeur du département d'astrobiologie de l'Université Columbia à New York. Et on va écouter la suite. Je vais essayer de traduire ses propos plus ou moins simultanément.
If the universe is expanding,
la question est la suivante, si l'univers est en expansion et que les galaxies s'éloignent les unes des autres, pourquoi notre galaxie, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède sont-elles en route pour une collision ? C'est une très bonne question. Il faut d'abord commencer par comprendre une ou deux choses avant de pouvoir répondre. La première, c'est que l'expansion de l'univers, l'expansion de l'espace à proprement parler, est en fait à de petites échelles relativement douces. C'est plus comme un reflux, comme un courant qui étire l'espace autour de lui. Mais pourquoi y a-t-il des choses dans cet univers ? Pourquoi y a-t-il des planètes, des étoiles, des galaxies pour commencer ? Parce que si l'espace est en expansion, comment est-ce que les choses tiennent ensemble ? La réponse, c'est que la gravité, à petites échelles, peut vaincre cette vague d'expansion de l'espace. Donc Andromède et la Voie lactée ont simplement commencé leur chemin assez près l'une de l'autre dans l'univers pour que leur masse et donc leur attraction gravitationnelle mutuelle soient plus fortes que l'expansion. Elles s'attirent mutuellement et se rapprochent l'une de l'autre. Dans 4 à 5 milliards d'années, elles vont se rentrer dedans et devenir quelque chose de nouveau qui se sera soustrait à l'expansion cosmique. Voilà, un bon Wikipédien qui s'est quand même un petit peu renseigné, j'ajouterais que le risque de collision entre étoiles semble assez peu probable, en fait. Il y a quelques 1000 milliards d'étoiles dans la galaxie d'Andromède et quelques 300 milliards dans notre galaxie, la Voie lactée. Le risque que deux étoiles se touchent est négligeable, en fait, en raison des grandes distances entre elles. Par exemple, dans notre galaxie, l'étoile la plus proche du Soleil, c'est Proxima du Centaure, qui se trouve à 4,2 années-lumière. Alors, si le Soleil était une balle de ping-pong, Proxima du Centaure serait un petit poids à quelques 1100 kilomètres. Ça donne une idée de la distance entre les objets. Et même en comptant que la concentration d'étoiles est plus dense vers le centre des galaxies, ce serait quand même toujours l'équivalent d'une balle de ping-pong tous les 3,2 kilomètres. Donc, les risques de collision semblent assez improbables. La source de cette simulation, c'est la NASA. Il y a 2-3 liens qu'on mettra dans les notes de l'émission. Autrement, on a un « Pourquoi je kiffe la science » qui nous a été envoyé par un auditeur. On l'a en format audio, c'est Slash qui l'a envoyé. Mais là aussi, comme le retourne, on est en train de faire une émission assez longue. Je propose qu'on le garde pour la prochaine fois.
Bon, surprise. Désolé pour le teasing.
Exactement, ouais. Alexandre, toi, t'as participé à cette chaîne de Pourquoi je kiffe la science ? Je crois pas, hein ?
Non, je suis abonné. Enfin, je l'ai.
Tu l'as vu, ouais.
Mais donc, j'ai pas participé. Mais ça me paraît bonne initiative, oui.
Tu vas pas y participer ou ?
Mais c'est francophone ou ?
C'était lancé par certains. Café, ça a été lancé par certains.
Ah oui, d'accord. Pardon. Oui, d'accord. Ok. Oui. écoute, je vais regarder ça. Ouais, bien sûr. Ouais, non, c'est juste. Je pensais aux images qu'on voit parfois.
Ah non, là, c'était juste un groupe de. Enfin, c'est chacun notre tour. Alors, Alan y a participé, moi aussi, de juste dire pourquoi on aime la science.
D'accord. Ok. D'accord.
Et c'est vrai que moi, je serais curieux de te lire là-dessus.
Bon.
Mais on a entendu un oui du bout des lèvres. On prend ça comme un engagement.
Il y a un oui du bout des lèvres.
On pourra bientôt lire ton billet à ce sujet. Ok, ben on arrive à l'heure de la quote déjà. Alors Alexandre, est-ce que tu as fait tes devoirs de parfait invité de Podcast Science ? Est-ce que tu es venu avec une quote ?
Ouais, écoute, j'ai été venu avec plusieurs, mais je vais en faire qu'une, hein, promis. Je vais citer des trucs un peu marrants de ces ingénieurs anti-relativistes, là, tu vois. Je vous connais par cœur, donc c'est dans ce cercle de physique, Alexandre Dufour, je la cite là dans ce que j'ai trouvé écrit, je vois, à propos de l'effet Doppler-Fizeau, qui est un effet de la relativité. Enfin bon, il croit que c'est un effet de la relativité générale, mais enfin bon, on peut considérer que l'effet Doppler-Fizeau amélioré, c'est un effet relativiste. Ils disent, ils sont tombés par terre, c'est la faute à Doppler. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Fizeau. Alors c'est une paraphrase de la fameuse ritournelle de Gavroche, là, ils sont tombés par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau.
C'est un bon sens de la formule.
Oui, c'est un bon sens de la formule, tout à fait. Et donc, voilà, c'est un truc marrant. Et le deuxième truc, je voudrais juste citer un nom de quelqu'un qui est vraiment un philosophe qui n'est pas oublié, mais qui s'appelle Gaston Bachelard et qui est vraiment quelqu'un que on a intérêt à relire dans la façon dont il présente la démarche scientifique, quoi. Voilà, ces livres se sont constamment réédités et se lisent très bien. Et c'est un très bon épistémologue.
Et t'avais une citation de lui, c'est ça?
Non, mais j'en cite plusieurs dans mon livre. Et puis je vais pas. Bah, il dit par exemple, c'est lui qui étudie Marat, et puis il dit, il a fait 5000 expériences de physique et pas une seule n'a été retenue par la science. Donc non, mais il a assez étudié le cas de Marat et puis l'ensemble de la démarche épistémologique. C'est lui qui dit, les scientifiques sont utiles à la science dans la première partie de leur vie, nuisibles dans la seconde partie. Bon, il caricature un petit peu, évidemment, mais c'est un philosophe de très haute tenue. Voilà, ma cote part.
Excellent. Merci beaucoup. Et puis, Nico, t'en avais aussi une?
Ouais, moi, j'en avais relevé plusieurs aussi dans le bouquin. Il y en avait une, toujours dans le sens de la formule. C'était « Défends ta peau contre tes médecins, défends ta raison contre tes savants ». De Maritain.
Ouais, Jacques Maritain, qui était un philosophe un peu de l'époque de Bergson, là, philosophe chrétien, tout à fait intéressant aussi.
Et puis, sinon, donc, il y avait celle, je vais la répéter parce que je l'aime beaucoup, de Groucho Marx, où c'est quasiment une devise qu'il faut avoir. Je ne souhaiterais pas faire partie d'un club qui m'accepterait comme membre. Ah,
c'est beau ça. Un syllogisme.
Ouais, c'est merveilleux. Quelques plugs et annonces avant de conclure. Tout d'abord, je voulais vous signaler qu'il y a du nouveau concernant la rencontre AFK, c'est-à-dire Away from Keyboard. Il ne faut pas dire in real life parce que tout ce qui se passe sur Internet, c'est aussi in real life. Donc maintenant, on dit AFK. Et donc cette rencontre de podcast suisse du 1er novembre à Lausanne, on va faire un podcast. Alors, ce sera dans une série de rapides interviews que Xavier, notre community manager, va nous demander à tous de livrer les coulisses de nos podcasts respectifs. C'est donc à moi qu'incombera la mission délicate de raconter les coulisses de Podcast
Qu'est-ce
Science.
Qu'est-ce que tu vas raconter?
Ce sera devant la Suisse ébahie. Enfin, je dis ça parce que moi, je suis là, mais si vous voulez venir, les amis, c'est le 1er novembre, vous pouvez raconter votre version.
Écoute, j'avais pas prévu de venir, mais si c'est toi qui parles des coulisses, j'ai un peu peur.
Moi aussi.
Ok. mais enfin bref, c'est une raison de plus pour nos auditeurs pour appliquer vite fait, en tout cas ceux qui se trouvent dans la région. Il ne faut pas oublier de s'inscrire. On vous remettra le lien dans les notes de l'émission. Je le copie vite dans la chatroom si on a des Suisses parmi nous qui ne seraient pas déjà inscrits. Voilà donc pour le premier plug. David?
Et en parlant de Xavier Durissel, l'infatigable community manager de Podcast Suisse qui donnerait presque envie de changer de nationalité, nous a signalé l'épisode 25 du podcast canadien Lobe Frontal qui reçoit le pharmacien qui avait déjà été interviewé par Jean-Michel Abrassard dans l'épisode 193 de Scepticisme scientifique sur la détoxification. Vous trouverez les deux liens sur les notes de l'émission.
Merveilleux. J'ai pas eu l'occasion d'écouter encore. Enfin, j'ai juste commencé, j'ai entendu le début des accents québécois savoureux comme on les aime. Mais j'ai malheureusement pas pu poursuivre. Mais j'ai hâte de l'écouter. Et puis, bien sûr, suivez le nouveau compte Twitter qui déchire. J'ai nommé 3615 Robin. Alors, il ne tweet que quand on le lui rappelle. Donc, c'est le jeudi soir. Enfin, là, ce sera mercredi, j'imagine, cette semaine. Mais ça y est, il a franchi le pas.
Et ça prend un peu de temps parce qu'il dicte ses tweets à l'opératrice. Donc.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il a encore des petits problèmes de style, mais ça vient. Puis la tweetosphère lui a souhaité la bienvenue à sa manière. Notamment, justement,
Xavier Durussel, qui lui a dit « Bienvenue sur Twitter, @3615Robin. Comment ça fait d'entrer dans le 21e siècle ?»
Alors, c'est une question rhétorique, t'es pas obligé de répondre, Romain. Par contre, on te laisse la parole pour la conclusion.
Vous nous aimez, c'est bien normal, c'est merveilleux. Faites-le savoir sur iTunes, Facebook, SoundCloud, Twitter, Google+, et sur notre site, évidemment, podcastscience.fm, où vous pouvez également, vous retrouverez également tous nos dossiers sous forme écrite. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire audio. Et n'hésitez pas donc à me suivre sur Twitter.
Et quoi ton adresse déjà?
C'est @3615Robin.
J'avoue que c'est très bien trouvé. Bref, merci à Alexandre, merci à
merci à toute l'équipe. Vraiment, c'est à la fois très approfondi et très vivant. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié.
Merci. Merci à toute l'équipe, bien sûr Nico Tup qui a, je crois que c'est le seul membre de l'équipe qui a vraiment fait ses devoirs de podcasteur en lisant le livre jusqu'au bout. Moi, je dois avouer que j'y suis pas arrivé à ma honte. Merci à David, à 3615 Robin, merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette émission par leurs interventions, commentaires, messages audio ou autres, aux inconditionnels de la chatroom et à tous nos poditeurs et poditrices préférés, bien sûr.
Pas d'émission la semaine prochaine, toute l'équipe de Podcast Science part en retraite, non, en université d'automne, n'est-ce pas Robin? On diffusera peut-être un petit hors-série si on y arrive, mais dans tous les cas, il n'y aura pas de live jeudi prochain.
Donc, comme on l'a dit, reprise de l'horaire normal le jeudi 17 octobre pour un crossover podcast suisse avec Ruxandra Stoicescu du podcast Tales of the World. D'ici là, que servir la science soit votre joie. À bientôt. Bonne semaine. Ciao, ciao.
Salut.
Ciao à tous.